Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour un nouveau podcast de la rédaction, podcast 337 avec moi aujourd'hui pour décortiquer l'actualidad. Il y a Julo.
Ciao.
Il y a Romain.
Hi dude.
Et il y a Julien.
Buongiorno tutti.
Et vous allez le voir, l'actualité a été extrêmement chargée. Car cette semaine, nous allons parler un peu de Level 5. Level 5, c'est cette boîte à cash qui vient d'annoncer avec son Level 5 Vision 2015 des tas de jeux.
La boîte à cash.
La boîte à cash, absolument. Après, Inazuma
Eleven.
Ça lit tout d'entrée.
Ah là là, la chanson Lâche-moi la boîte à cacash. Voilà.
Mais non.
Là, oui, on fait des paillards aussi de temps dans Gameblog. Il y a les 10-7, il y aura Fantasy Life 2, il y aura Yo-Kai Watch. Il y a des tas de choses. Est-ce que Level 5 transforme tout ce qu'il touche en or? Vous le saurez tout à l'heure, c'est Julo qui nous en parlera.
C'est bizarre,
peut-être. Il y a aussi la grande annonce de cette semaine qui fait plaisir à tous les enfants de la pièce, c'est Lego Dimensions.
Encore
une fois,
génial.
Une cash machine, c'est décidément, ça va parler de thunes aujourd'hui. À savoir, le rival de Skylanders Disney Infinity qui va donc débouler cette année à la rentrée. On en parle tout à l'heure avec Romain cette fois. Je crois que c'est Romain le spécialiste des Lego.
J'ai
ici.
Le droit de parler
président.
Oh, Julo, il peut, Julo peut y aller aussi.
Il était président du fan club des Lego, non?
Ah, pas du tout, non.
Non,
je pense que c'est plus Julo.
Ok, je pense.
C'est plus mon fils.
Et nous finirons avec l'annonce de Deus Ex Mankind Divided, la suite de Deus Ex Human Revolution de Eidos Montréal, qui nous a fait, on peut le dire, un peu baver avec son trailer d'annonce. On essaiera de décortiquer ça tout à l'heure. Mais avant ça.
Putain, attends. Oh non, t'avais quoi? Presque fini sur la musique là.
Ouais,
là il fallait faire un truc là.
Il y avait le finish là. Hein.
Mais oui, là, tu restais 5 secondes, tu gardais le truc et tu faisais une fin de ouf quoi.
Mais
t'as tout pété.
Podcast, ouais, moi j'aime bien les scratchs à la Philippe Corti.
Ouais, mais tu pouvais le faire
Philippe
juste à la
Corti.
Fin.
Moi, bon, je trouve que t'exagères un petit peu.
Acting, acting.
Ça monte pas du tout cette musique.
Non, justement là, elle finit ça.
Elle est pas héroïque, arrête, faut arrêter ces bêtises. Je vais me tourner vers toi, Julo.
Oui.
Car tu le sais, dans la vie, il y a
les wins, les gens qui gagnent et les gens qui perdent.
Exactement. Et cette semaine, qui a gagné?
Un duo. En fait, plusieurs duos.
Ah, voilà. Alors, dis-moi tout.
Alors, il s'agit du clip de GTA V qui a été fait donc par Étienne et Julien Pierre,
et Étienne,
de leur prénom, parce qu'ils n'ont donné que leur prénom.
Ouais.
Et qui nous a juste foutu la pêche tellement ça avait la classe, en fait. Donc, bravo à eux. Ils ont monté, en fait, des séquences de GTA V. Ils ont shooté pendant des tonnes et des tonnes d'heures.
Pendant 5 mois.
Et ils ont fait 5 mois de boulot pour faire un montage. En gros, c'est le clip non officiel de Monsieur Mix. Alors je sais que tu y tiens, c'est des Rémois.
Ah, Monsieur, oui, c'est un groupe de Rémois qui est sous le label Bromance, le label de Bromance.
Voilà, donc c'est le mix de Monsieur sur la chanson Tear the House Up de Zebra Cats. Si vous l'avez pas vu, bah allez le voir très vite parce que franchement ça défonce. C'est un montage dans lequel notre ami Trevor est mis dans des situations un peu compliquées, une sortie de boîte un peu trop alcoolisée. Voilà, il se lâche
complètement.
Avec une bagnole de police qui traîne par là et puis ça finit en course poursuite et ça finit mal.
Dire un peu voilà. Sébastien Tellier.
C'est exactement ce que
c'est. Ouais.
Un peu de ça, oui, alors c'est la version de Trevor avec la grosse barbe et le slip. Voilà.
Ouais. Donc, et le fuck the cops en tatouage
sur
les bides aussi.
Bien sûr.
D'ailleurs, on peut le voir hein, si vous êtes premium. Il y a un joli doigt qui a été adressé à la police et il y a une course poursuite. Ça se finit pas mal.
Donc vous tapez sur le moteur de recherche de Gameblog clip GTA, vous allez tomber dessus directement. C'est vraiment une bonne vidéo à voir si vous l'avez loupé cette semaine.
Les mecs sont des génies et surtout, c'est encore plus des génies. Parce que le jeu sort la semaine prochaine sur PC et qu'ils auraient pu le faire avec un mod, mais ils ont préféré le faire en 5 mois sur PS4 en galérant.
Ça mérite
encore plus.
Franchement, ça a de la gueule.
Mais ce qui est bien, c'est que ça te permet de tourner un clip à Los Angeles, un clip à gros budget pour rien en fait.
Même pas besoin de prévoir quoi que ce soit au niveau explosion.
Et plus la technologie va avancer, je pense, plus ce genre de pratique va se répandre. Parce que c'est vrai que, bon, après là c'est qu'une version PS4, mais après quand tu vois la version PC et déjà ce que les modeurs avaient réussi à faire sur GTA 4, sur PC, tu vas avoir des trucs limite photoréalistes bientôt et ça va donner des clips de malade.
Bah, déjà là pour ça, franchement, chapeau, j'ai envie de dire.
Chapeau les gars.
Mais la vie, ce n'est pas que des victoires. Il y a aussi des choses qui ne vont pas.
Voilà, il y a ceux qui creusent aussi.
Exactement, il y a ceux qui creusent. Qui a creusé cette semaine?
Alors moi, j'ai été. Écoute, Il y avait peut-être on a un peu galéré pour trouver un fail, mais cela dit, celui-là, ouais,
comme,
il m'a marqué.
Comme t'as l'air de galérer pour annoncer le
ouais,
fail, en fait.
Alors voilà, il s'agit de Ride sur PS4, et Xbox One, et PC, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Donc c'est le nouveau jeu des développeurs italiens de Milestone. Mm-hmm. Alors c'est un jeu important, mine de rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de moto, et il y a beaucoup de fans de moto, et donc qui s'intéressent à ça, et qui étaient d'ailleurs, à mon avis, très heureux de pouvoir se payer ce jeu-là, qui est plutôt moyen au final, mais qui a un bon gameplay et qui pourra satisfaire vraiment ceux qui sont super hardcore fans.
Qui est sorti ce 10 avril.
Il est officiellement sorti 10 avril, mais en fait ils l'ont sorti un peu en avance. Et je ne suis pas le seul, moi qui l'ai testé, il y avait pas mal d'autres gens qui jouaient à ce moment-là, à avoir constaté un bug de malade. Mm-hmm. Qui corrompt les sauvegardes. Et donc qui après 3, 4 heures, 5 heures, parfois 10 heures de jeu d'un seul coup, alors que tu as débloqué tout un tas de motos, tu peux acheter plein de matos quand t'es fan de moto, c'est génial. Tu peux tout customiser jusqu'aux freins, etc. La carrosserie et tout. Tu perds tout. La sauvegarde est corrompue. Et ce que je trouve hallucinant, c'est que Milestone ne communique même pas sur son blog, sur son site officiel, pour dire écoutez les gars, on est désolé, il y a un bug, il est connu, on travaille dessus, etc. J'ai été sur leur Twitter, sur leur site officiel.
Ah, mais
etc.
Ça, c'est l'héritage. Hein. Ils prennent la thune, ils se cassent. Hein. C'est ce que
je trouve ça hallucinant. Je trouve ça hallucinant.
Ouais, voilà. Pas de suivi du tout pour
l'instant. Il n'y a pas de suivi de ce bug. Donc, si vous comptez jouer à Ride, faites attention, peut-être attendez quand même, parce que moi, personnellement, j'ai pas eu ce problème. Tout de suite, hein, j'ai eu le temps de jouer quelques bonnes heures d'affilée avant de constater seulement 2-3 jours plus tard que ma sauvegarde était corrompue. Mais quand elle est corrompue, c'est foutu. Hein, faut recommencer la carrière à zéro, etc. Mmh. Donc gros fail
pour
Milestone.
Et le pire, c'est que tu peux te le rechoper une autre fois ensuite. Hein, donc comme il n'y a pas de solution, c'est compliqué.
Gros fail pour Milestone, voilà. Bon. C'est pas bien, les gars.
Ah non, c'est pas bien du tout.
Non.
Bah mais les gars, si vous nous écoutez en Italie, je viens vous voir dans pas très longtemps. Alors faites gaffe à vous.
Cette la peur menace. Est totale.
Bah ouais, ils peuvent flipper, non?
Par contre,
ils sont à Milan.
Ils sont à Milan.
Ouais, toi, tu vas plus dans le sud, je crois.
Ouais, je vais un peu plus dans le sud, mais je ferai un petit détour juste pour eux. Romain. Mon cher Romain. Quel est le chiffre de la semaine?
Et oui, cher Plumeau, le chiffre de la semaine, cette semaine, c'est 8,5. 8,5 quoi? 8,5 millions. Et 8,5 millions de quoi? 8,5 millions de Tomb Raider. Vendu à travers le monde.
D'accord, mais 8,5 millions de Tomb Raider de quoi?
Le reboot, toutes versions confondues. Alors on se souvient que quand Square avait balancé les premiers chiffres de vente de Tomb Raider époque PS3 360, c'était plus ou moins déçu. C'était genre déjà à plus de 3 millions.
C'était 3 millions en un mois et ils étaient un peu dégoûtés.
Ils n'avaient pas atteint leurs chiffres.
Alors j'ai eu le fin mot de l'histoire quand même, hein, parce que ce n'est que de la politique. C'est-à-dire que c'était des chiffres qui étaient arrêtés à la fin de l'année fiscale. Le jeu était sorti genre 3 semaines avant
c'était
seulement.
C'était vraiment peu de temps.
Donc en
avant.
Fait, c'était un très bon démarrage, mais il fallait qu'ils virent un peu des gens. Et donc, ça permettait d'expliquer un peu, genre, oui, c'est pas très bon. Hein. Ah, bon, là, toi t'es viré, et puis voilà quoi.
Et donc,
mais
très
c'est
belle.
Dégueulasse.
Mais
oui, un peu, ouais.
Très belle. Il y a Lucet là-dedans, qu'est-ce que
c'est de la politique.
Très belle carrière. Et gros succès du remake, enfin du portage HD sur PS4 et
la
Xbox
Definitive
One.
Edition,
ouais, qui a bien fait gonfler les ventes. Et quand on sait que Tomb Raider. Depuis 96, c'est un peu plus de 40 millions d'exemplaires vendus, tous jeux confondus. Bah, ça prouve que rien qu'avec celui-là, ils ont fait un cinquième de leur vente. Quoi.
Bah ouais, puis c'est la plus grosse perf pour un Tomb Raider. Et
c'est le jeu Tomb Raider le mieux vendu, plus fort alors, que le premier, plus fort que Tomb Raider 2.
Alors ça aussi, il faut tempérer un petit peu. C'est parce qu'il y a plein de consoles.
Bah ouais. Voilà, c'est un gros parc installé. Ouais,
voilà, c'est-à-dire que c'est lourd.
Mais on tempère pas,
le premier
ça,
et le deuxième Tomb Raider, c'était plus vendu, on va dire, de manière unitaire sur PlayStation. Mm. En revanche, bah, il avait pas marché des masses sur PC et Saturn.
Ah oui.
Et donc, bah, au final, le cumul fait que c'est un chiffre inférieur.
Sur Engage, ouais, c'est vrai,
mais par contre, la meilleure version, la meilleure vente de ce Tomb Raider reboot, là, c'est sur PS3. Et elle est deux fois inférieure aux ventes du premier Tomb Raider sur PlayStation. Donc ça permet de voir qu'en gros elle s'est moins vendue mais sur plus de machines.
Donc toi tu vas tempérer pendant tout le podcast.
Et voilà, je suis tempéreur. Températeur.
Ça prouve une fois encore qu'aux chiffres tu peux leur faire dire exactement ce que tu veux. Soit tu peux faire passer ça finalement pour un succès relatif, soit pour un gros carton.
Bah, dans les faits, c'est un succès puisque l'important c'est combien t'en as vendu au final. Parce que c'est ça qui fait les
peu
sous-sous dans la carte. Voilà,
à partir du moment où t'es pas constructeur de machine, peu importe la plateforme sur laquelle
pour
le jeu est vendu.
Le but c'est d'en vendre le plus possible. Hein.
Ah bon?
Je suis heureux d'apporter de l'analyse de fond.
Ça, je comprends maintenant. Pour le coup, il sera intéressant de voir combien combien d'exemplaires du prochain Tomb Raider Eidos, enfin Square, arrivera à vendre uniquement sur Xbox One et Xbox 360. Alors, ouais. Et on peut déjà, je pense, dire que la version 360 ne devrait pas se vendre des masses, parce que les jeux last gen se vendent quasiment plus. Donc on verra bien.
Bah, espérons déjà que le jeu soit bon. On va commencer déjà par penser à ça, puis ensuite on verra.
C'est le plus important finalement.
Si
pour
le jeu
nous.
Se vend bien ou pas, c'est une autre histoire.
Mais si tu veux continuer à avoir des chiffres de la semaine, il faut qu'il se passe des trucs.
Il y a plein de chiffres de la semaine qu'on peut faire. Tiens,
22, c'est la température à Paris en ce moment et ça fait plaisir.
2, c'est la taille de mon slip. Enfin, tu vois, tu peux faire des tas de trucs avec des chiffres, n'importe quel.
2, c'est la taille de ton slip.
Oui, je fais du 2. Ouais.
Ah merde. Ouais. Pas de chance quand même.
Bah, non, mais c'était dans un film de Pierre Richard, je crois, il demandait des caleçons taille 2. Bref. Messieurs, vous savez quels sont les 5 articles les plus lus de la semaine ?
Absolument pas.
J'ai une petite idée. Ouais.
J'ai une petite idée pour le premier.
T'as arrêté quand ton classement ? Hier ou ce matin ?
Ce matin, absolument.
Vendredi matin.
En cinquième position, oui. C'est les images officielles de la nouvelle transformation de Goku.
Et bah dis donc, bah, je vais te laisser faire le boulot maintenant. Hein,
en quatrième position, c'est le YouTuber Angry Joe qui arrête les vidéos Nintendo.
Mais comment t'as fait pour retenir tout ça ?
J'ai pas le 3 et j'ai pas le premier. Ah si, le premier c'est le top.
Ouais, bon, on va finir
c'est Goku, une transformation Vegeta. Ouais. Et en
2.
Il manque le 3.
Ouais, le 3, on va le savoir tout de suite. Donc comme tu le disais, 5ème Dragon Ball Z Résurrection de Freezer, des images officielles de la nouvelle transformation de Goku. Transformation.
Vous
géniale.
Aimez bien les Dragon Ball. Hein.
Oh, non, les par contre, là, je suis super déçu là, ces histoires de transformation, moi ça me fait chier. Hein. Ouais, déjà depuis Saiyan 3,
c'est un manque d'originalité, oh là là. De créativité.
Ah, maintenant
assez,
il a les cheveux machin, hein. Faut pas le dire, c'est ça, parce qu'on
faut pas le dire.
Non, il faut pas le dire.
Il a les cheveux machin maintenant.
Même si au fond c'est de la pure communication officielle, c'est pas des trucs qui ont été pris en douce, c'est Toei qui diffuse des images dans les magazines, etc. C'est comme la nouvelle transformation de Freezer, c'est de la com officielle, mais apparemment en France il faut rien montrer, rien dire, parce que les gens veulent regarder le film sans rien savoir.
Bah, à la fois il suffit de voir le nombre de personnes qui semblent intéressées par la news pour avoir la réponse que ça intéresse.
Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir
beaucoup
quand même.
Les gens,
effectivement. Numéro 4, c'était donc bien Angry Joe, un gros youtubeur américain qui arrête les vidéos de jeux Nintendo. Je crois même qu'il aurait dit laisse faire foutre aussi comme PewDiePie.
Ah mais clairement, ouais. Ouais. Et lui c'est en vidéo, donc il n'y a pas de question de suppression de messages, trucs comme ça. Il l'a dit clairement, fuck you Nintendo. Donc voilà.
Tout ça parce qu'il a tiré donc une vidéo de Mario Party 10 qui était à plusieurs millions de vues déjà.
Mais blague à part, une fois de plus quand même, quand tu perds PewDiePie qui est le premier YouTuber au monde, quand tu perds Angry Joe qui est pas
quasiment
le premier,
à 2 millions,
enfin,
hein. 2 millions d'abonnés, c'est pareil.
Exactement, qui est assez influent quand même sur YouTube. Attention Nintendo quand même. Ouais. Hein? Avec votre histoire là, je suis pas sûr que ça prenne une très très bonne tournure.
Bah il y a toujours les chiens de garde qui vont dire que tout est de la faute d'Angry Joe en fait. Le mec il fait une vidéo.
Il leur parle directement d'ailleurs dans cette vidéo. Elle est assez marrante cette vidéo en fait.
Il parle en bien. Le pire c'est qu'il parlait en bien de Mario Party. Il expliquait qu'à de nombreuses reprises il a conseillé aux gens la Wii U. Même lui dans sa vidéo il dit qu'il a passé plus de temps, enfin plus de bons moments sur sa Wii U que sur sa PS4 et sa Xbox One combinées. Mais malgré tout, il ne peut pas supporter ce comportement.
C'est 40% de revenus publicitaires pour Nintendo, et que dès qu'il y a un truc qui leur appartient, bah oui.
Alors après, on en avait déjà parlé, je crois, dans un podcast. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Mais c'est vrai que pour une boîte comme Nintendo, qui est loin d'être dans le rouge financièrement, je trouve que c'est super.
Non, mais surtout,
c'est une
attitude qui est complètement à l'opposé de
ce que
des
autres.
Voilà. Et d'ailleurs, j'ai appris un truc dans cette vidéo, c'est qu'Electronic Arts rémunère même directement les gens
ça ouvre un autre problème.
Voilà, ça ouvre un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une démarche totalement opposée. C'est-à-dire qu'il y en a, il y a d'un côté des éditeurs qui comprennent qu'en fait ça fait de la pub pour leur jeu, et de l'autre un éditeur qui a l'impression qu'on exploite ces jeux et que donc il faudrait ce qui est légitime en fait, hein, qu'il faudrait
c'est
légitime, mais c'est juste que sur le marché c'est ridicule,
et je pense pas que ça leur apporte tant d'argent que ça au fond. Et quand tu vois qui est une boîte qui a quand même une image ultra négative auprès des joueurs dans l'ensemble,
ça se calme un peu en ce moment,
ça se calme un peu, mais
c'est plus Microsoft maintenant.
c'est souvent une boîte qui est assez mal vue et qui elle favorise ça, et Nintendo à propos duquel tu ne peux strictement rien dire sans te faire attaquer dans tous les sens, eux empêchent les youtubeurs de faire des vidéos.
C'est triste, on voudrait bien faire des vidéos librement, tous. Laissez-nous faire. Numéro 3, l'incroyable clip vidéo entièrement réalisé avec GTA 5 PS4.
C'est celui qui te manquait,
on en a parlé juste avant. Numéro 2, Dragon Ball Z Résurrection de Freezer. Nouvelle transformation pour Goku et Vegeta. Les infos, encore une fois, vous verrez.
C'était sans les images là, cette fois.
Celle-là, vous pouvez la consulter, les gars.
Non, c'est... si, parce qu'il y a une image de produits dérivés en fait. Parce que c'est via des produits dérivés qu'on l'a su d'abord.
Attention.
C'est toujours l'histoire de cheveux. Et numéro 1, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était les plus injustes annulations.
J'adore la photo que t'as choisi pour illustrer ce.
Mais c'était moi en fait. C'était moi, c'était moi enfant. Encore une fois, le numéro 3 va sauver votre vie. Si vous regardez bien ce petit top sur ces jeux qu'on aurait bien voulu voir débarquer chez nous, il y en a oublié quelques-uns.
Le numéro 7 est incroyable.
Et le top de cette semaine est sympa aussi. Il va vous faire, si vous êtes premium, c'est demain, le samedi. Puis les autres, il est déjà là sur la Super Nintendo. Les meilleurs souvenirs de jeux de Super Nintendo de la rédaction. Ah, ouais. Comme ça, vous pourrez nous dire un petit peu aussi, vous, quels sont les jeux Super Nintendo qui vous ont le plus marqué.
Super Nintendo qu'aura 25 ans, mine de rien, cette année. Hein, quand on y réfléchit.
Ouais. Merci de nous foutre un bon coup de
vieux 90, elle est sortie en 90. Il me semble bien en novembre 90 si je ne m'abuse.
Je crois que tu t'abuses.
C'est vrai?
Je crois que tu t'abuses.
Ouais. Tu penses que c'était quoi toi?
91.
Ah, moi je crois que c'est 90 au Japon, mais après.
Bah oui, je parle du Japon. Ouais. Bah ok, bon.
Ouais. Moi j'ai eu la mienne en 93, ça j'en suis sûr.
Non,
je
mais je crois que c'était 90. Je crois que c'était 90. Okay. Vas-y, cherche, vas-y.
La réponse dans quelques instants dans ce podcast.
Et bien maintenant que nous avons fait le tour des articles les plus lus, je vous propose tous ensemble de vous prendre la main.
Ouais.
Ah, ou d'éternuer aussi, vous pouvez éternuer, il n'y a pas de problème. Je vous propose d'écouter cette petite musique. Tout à fait irritant.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Une musique qu'adore Julo.
Ah mon dieu.
C'est une musique traditionnelle africaine.
Exactement.
Du Botswana.
Et donc c'était 21 novembre 90, Julo, c'est ça?
C'est ça.
Qui avait raison? Eh oui,
et c'est marrant, c'est d'habitude. En France, c'est 92,
non, d'habitude, j'ai raison. Oui, on l'a eu en
92.
Moi, je l'ai eu en 92.
Ouais. Enfin, tout ça pour dire que cette jolie musique que vous entendez, c'est Yo-Kai Watch 3.
Quel joie!
Et ça crie dans tous les sens!
Attention, les fantômes!
C'est affreux le boucan que ça fait. Yo-Kai Watch, c'est une des licences de Level 5 qui a tenu son Level 5 Vision 2015 cette semaine. Et là, c'était une pluie d'annonces. Il y a encore eu donc c'est Yo-Kai Watch Buster celui-ci qu'on vous voyait à l'écran par Poufy, mais la musique c'était bien Yo-Kai Watch 3. Et donc il y a eu Yo-Kai Watch 3, Yo-Kai Watch Buster, une série animée, un nouveau truc cross-média là, un nouveau projet cross-média qui s'appelle Snack World,
Snack World
qui sortira sur 3DS et smartphone au Japon.
Ouais.
Layton 7 et Fantasy Life. C'est
vrai que on est plus ou moins encore à l'abri entre guillemets de tout ça, mais il y a un vrai phénomène
de cette musique,
au Japon
autour, bien y être encore un peu, hein.
Autour de Level 5 d'une manière générale qui produit quand même des jeux à succès, mais on parle de très très gros succès, et en l'occurrence Yo-Kai Watch, c'est une licence que vous connaissez peut-être pas encore, mais qui est comparée un peu à la vague Pokémon de l'époque. C'est bon, peut-être dans une moindre mesure, parce que Pokémon aujourd'hui c'est complètement ultra gigantesque, mais quand même avec 6,5 millions de jeux vendus en deux épisodes,
c'est plus que les Pokémon maintenant,
ouais, rien qu'au Japon, hein. Oui, voilà, c'est-à-dire
il a dépassé les Pokémon aujourd'hui,
c'est-à-dire que dans les cours de récré, c'est aujourd'hui quasiment plus à la mode que Pokémon.
Ça, on me l'a confirmé quand j'étais au Japon. Ouais. Vraiment, on m'a dit Yo-Kai Watch, c'est le nouveau phénomène. Ça dépasse les Pokémon.
Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'un Yo-Kai? Yo-Kai au Japon, c'est, vous savez, c'est ces petits fantômes du folklore nippon. Donc, toute la licence est basée là-dessus. En gros, vous incarnez un petit personnage qui a une montre au pouvoir magique qui permet donc à ce petit garçon de.
Et c'était pas une Apple Watch, hein, regardez bien.
Non, c'est pas une Apple Watch.
Ça n'a rien à voir. Hein.
Ça lui permet de voir et d'interagir avec les yokai qui nous entourent mais qu'on ne voit pas et qui sont responsables de tous nos petits tracas au quotidien, etc. Donc c'est un jeu à collection, encore une fois. À partir du deuxième épisode, ils ont fait deux
deux
cartouches différentes pour avoir des globalement le même jeu avec des petits bonus en plus, voilà, pour vendre tout par deux. Et ils ont évidemment lancé en fait un dessin animé et un manga en même temps ou juste après le jeu.
Mais ça, c'est un processus qu'ils avaient déjà accompli aussi avec Inazuma. Hein.
C'est exactement ça. En fait, ils ont tout un tas de jeux chez Level 5 qui sortent comme ça, des projets. Bon, ils inventent toujours des nouvelles choses. Ça tourne toujours un peu autour d'une ambiance animation japonaise, etc. Jeux plutôt enfantins. Mais bon, il y a eu aussi les Layton, etc. Et leur premier gros projet de cross-média, c'était donc Inazuma Eleven, tu as tout à fait raison, qui est arrivé chez nous aujourd'hui, mais pareil, qui est arrivé avec beaucoup de retard et qu'aujourd'hui a un gros succès. succès. Les dessins animés passent à la télévision en France, aux États-Unis, les mangas sont sortis, etc. Et notre jeunesse est accro à ça.
Notre jeunesse,
voilà, notre belle
française,
jeunesse, comme toutes les jeunesses maintenant quasiment du monde entier, est accro à Inazuma et le sera bientôt, parce que c'est ça en fait l'une des grosses annonces qui a été faite et qui nous concerne directement, c'est que la série va enfin sortir du Japon, arriver aux États-Unis et en Europe. Chez nous, donc, il y a Viz qui va s'occuper de la traduction et de la localisation du manga et de la série animée. Je crois que c'est... Alors attends, c'est Taka... Non, c'est pas Takara, c'est l'autre... C'est pas Bandai. Je
Tommy
sais plus. C'est Tommy, je crois, qui va
faire
les
Takara
jeux.
C'est Takara Tommy, je crois que c'est un seul groupe en fait.
Alors là, j'ai un trou, je m'en rappelle plus. Mais en gros, les jouets vont arriver en même temps. Et si ça a été si long, c'est parce que Level 5 tenait vraiment, pour imposer son nouveau projet cross-média, donc le deuxième, à faire en sorte que tout arrive en même temps, que tout soit calé, que les dessins animés passent sur des grosses chaînes, que des grosses boîtes s'occupent de la distribution des jouets, des grosses boîtes d'édition des mangas.
Et pas rater leur lancement, quoi.
Chez nous, par exemple.
Que ça fasse du bruit tout de suite.
Dans tout l'Occident, c'est Nintendo qui va être éditeur directement du jeu pour la France, les États-Unis et tous les pays d'Europe, etc.
C'est trop beau, hein, là, on le voit, c'est
ouais,
la version
mignon.
3DS,
ouais,
c'est,
la 3DS,
c'est vraiment
là, ouais.
Très très mignon.
Ouais. Donc ça a été un gros succès. Et donc, du coup, au Japon, il y a eu aussi d'autres annonces dans ce Level 5 Vision. Il y a le troisième épisode de
UK Watch.
Alors, on n'a eu Buster. Aucune information pour savoir si c'était directement le troisième qui allait sortir chez nous, etc. On peut parier que non, évidemment, on va se taper le 1, puis les 2, etc. Et donc le 3 a été annoncé au Japon, en plus d'un nouveau jeu, qui lui se base en fait, il s'appelle
Busters.
Donc Yo-Kai Watch Busters, et lui il se base en fait sur un mini-jeu qu'il y avait dans Yo-Kai Watch 2, dont ils ont fait un jeu complet à la demande des fans. Voilà. L'autre grosse annonce du Level 5 Vision, c'est justement le troisième projet cross-média. Alors aucune date de sortie, mais ils ont dévoilé un super petit court-métrage, parce que là c'est d'autant plus basé sur l'animation qu'avant, sauf que là c'est pas dessiné, c'est un peu en mode pâte à modeler, mais fait par ordinateur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est le rendu pâte à modeler, mais en computer graphics. Et du coup, ils ont dévoilé là juste un petit court métrage. Et on peut deviner grâce à ce court métrage qu'en fait ils vont développer une ligne de jouets en NFC. Évidemment, voilà. Donc on connaît le succès de Skylanders, des Amiibo et bientôt des Lego dont on va parler dans un deuxième sujet.
Ouais.
Level 5 va pas y couper, évidemment. Et ils vont sortir a priori une gamme de jouets que tu pourras matérialiser dans le jeu. Par exemple, tu veux que ton personnage utilise une épée et un bouclier de tel type, hop, tu utilises les fonctionnalités NFC de la 3DS, mais aussi de ton téléphone portable. Mais parce oui. que, alors, le truc important à noter, et là c'est une tendance, ça fera plaisir à Julien qui
pas plaisir qui, non, pas
non,
plaisir.
Non,
tu vas kiffer,
mais
tu vas nous sortir un truc que t'as dit il y a deux ans,
voilà.
À savoir,
oh, y a bien
ils
plus
vont
que
tous
ça.
Mourir
y a bien
alors
plus
donc
que ça.
Voilà sur
y
la
y
bande des consoles. Alors en l'occurrence
en
l'occurrence effectivement ils ont annoncé également que le prochain Layton qui s'appelle Layton 7 allait sortir uniquement sur smartphone, de la même manière que le, et là c'est encore plus étonnant, Fantasy Life 2, le fameux RPG qui est sorti sur 3DS cette année, enfin l'année dernière en France, allait sortir exclusivement sur smartphone. Et ce nouveau projet donc qui s'appelle The Snack World va sortir sur 3DS certes, mais aussi en même temps sur Android et iOS. Donc ça aussi c'est une première pour une grosse série, hein. C'est comme si on avait les Inazuma Eleven était sorti sur 3DS et smartphone, donc voilà. Donc ça
alors pourquoi s'exporter sur smartphone
ouais.
Bah, Julien, tu veux dire
Non, mais c'est intéressant de dire que déjà d'ici quelques semaines, on va faire un sujet, justement, un podcast dédié aux jeux vidéo japonais, parce que mine de rien, ce début d'année 2015 et ce qu'on voit dans des mois à venir montre quand même un regain de forme du développement japonais sur les avec les AAA,
Level 5,
etc.
Level 5 en est un exemple, Square Enix même en ce moment,
ouais,
etc.
Carrément. Alors on en reparlera, on aura un invité hein, qui vit au Japon, qui travaille dans le milieu du développement et qui pourra nous en parler. Et effectivement, Effectivement, lors de mon dernier passage au Tokyo Game Show, j'avais pu vraiment m'entretenir avec beaucoup de développeurs, avec beaucoup de gens du milieu du jeu vidéo japonais, qui tous unanimement me disaient, en fait, il n'y a même plus de débat, enfin, c'est même plus une question de savoir est-ce que le jeu portable, nanani, nanana, ou le jeu vidéo, ils ont dit la transition, elle est faite, elle est établie.
Surtout au Japon.
C'est le smartphone qui a pris le dessus, ce qui n'empêche évidemment pas hein, des beaux succès, des très gros jeux de se vendre encore sur console portable traditionnelle, on va dire 3DS ou Vita, mais le marché s'est vraiment extrêmement réduit et la transition est plus qu'en marche. Là, ce qu'on voit de la part de Level 5, c'est des choix stratégiques importants. Alors après, il y a encore des jeux qui sortent sur 3DS hein, évidemment, et il y en aura encore.
Mais parce qu'ils font beaucoup de blé avec la 3DS aussi, bien donc sûr. Tant que ça marche...
Ces marchés sont complémentaires, voilà. Mais néanmoins, voilà, la tendance est lourde et profonde, et ce qui se passe au Japon, vous le savez, à ce niveau-là, met un peu de temps à arriver en France, mais il suffit de voir l'absence absolument totale et définitive des développeurs occidentaux sur les consoles portables pour voir que malheureusement, c'est un marché qui a été massacré. Évidemment, la 3DS se vend bien. C'est des dizaines de millions, c'est plus de 50 millions d'exemplaires vendus, mais si on compare à la DS, c'est quand même 3 fois moins, et ça va pas, à la fin de vie de cette machine, ce sera pas que 2 fois moins, et puis quand on regarde la vie de la Vita par rapport à la PSP, là c'est quand même 8 à 9 fois moins, donc le marché global des consoles portables a été massacré.
Et c'est là que tu vois que Nintendo
continue
à s'en sortir correctement, grâce à ses marques, toutes ses marques, toutes ses licences, la puissance de sa marque, quoi.
Ouais, mais tu vois que non seulement Nintendo a des marques puissantes, mais aussi ils avaient des moyens de soutenir, des moyens financiers de soutenir la console, parce que Sony a des licences fortes et des licences très populaires elle aussi, sauf qu'ils n'avaient pas les moyens de développer ces licences-là sur Vita, parce que sinon, si Sony avait pu faire du God of War, faire d'autres Uncharted, d'autres jeux de ce genre, ou même demander à Quantic de faire un jeu sur Vita, je pense que le destin de la console aurait été autre que celui qu'elle a actuellement.
C'est là que tu vois qu'on dit souvent à Nintendo, ça va pas forcément, etc. Mais en l'occurrence, la D2, c'est Sony qui a le moins d'argent et que Sony ne pouvait pas financièrement pousser à la fois la PS4 et continuer à croire en la Vita en mettant des studios dessus, etc. Ils ont dû faire un choix. Parce que quand même, aujourd'hui, entre guillemets, heureusement que la PS4 se vend bien, parce que sinon, je crois qu'on serait en train de dire adieu à la marque PlayStation, ou en tout cas, un gros, gros ralentissement.
Je pense qu'on pourrait presque même dire adieu à Sony tout court. Parce que vu l'argent perdu sur la division télévision, l'argent perdu sur Vaio, donc les ordinateurs, l'argent perdu sur le mobile, etc.
C'est le jeu vidéo qui soutient l'entreprise.
Ils sont en train de vendre de l'immobilier, et ils sont en train de fermer des branches, etc.
Là où Nintendo, effectivement...
On a vu les employés vendre des hot dogs en bas de chez Sony. Hein.
Non, je joue au dé sur le trottoir.
Tu joues au dé ou aux cartes.
Au bateau.
Voilà, c'est ça, mettre des gens à poil avec un carton, puis hop, les flics arrivent et ils se cassent en courant.
Au contrario, Nintendo a son fameux trésor de guerre et ça avait été calculé, il pouvait avoir
jusqu'en 2052 en foutant rien.
Voilà, c'est ça.
Mais après, ce qui est intéressant, ce sera de voir vraiment la prochaine génération de consoles portables. Comment elles seront, puisque quand même, on l'a vu hein, maintenant, Nintendo, alors qu'entre guillemets, c'était les irréductibles à ce niveau-là, va aller sur les smartphones.
Est-ce que vous pensez pas qu'il va y avoir une unification? Donc, s'il y a une prochaine génération de portables, ça va être une unification vers les plateformes iOS et Android.
Tu sais, ce qui est très intéressant en fait, en sous-texte du deal que Nintendo a passé là pour son arrivée dans les mobiles, c'est de voir exactement de travailler avec DNA. En fait, si tu regardes bien un peu tout ce qui a été dit, DNA va s'occuper en fait d'un OS commun avec aussi la NX. Donc la prochaine console de Nintendo. Donc ils vont unifier un peu leur plateforme et à mon avis, ils sont en train de véritablement de faire ce que Apple a fait et Android a fait avec un OS commun de plus en plus sur toute une catégorie de plateformes, pas que du nomade. Et je suis persuadé que tout ça va être
OS un jour.
Ah bon, je sais pas comment ils l'appelleront, mais c'est possible. Et en tout cas, franchement, même pour les développeurs, ce serait une très bonne chose. Parce que ça, clairement, ça permettrait d'unifier tes développements et d'avoir peut-être une machine un peu plus nomade ou une machine un peu qui fait les deux, cette espèce de fantasme de la fusion qu'on ne connaît pas. Enfin, on sait pas si c'est ça qu'ils feront, mais en tout cas, quand même, on sent qu'on en prend un peu le chemin. Quoi.
Ou comme Sony a fait avec le PSN ou Microsoft a fait avec le Xbox Live, qui est commun à plusieurs machines avec des applications sur iOS, etc. Oui, je pense que c'est le chemin, c'est le chemin qu'ils prennent.
Ce glissement vers les portables, c'est un truc vraiment naturel aussi. C'est quelque chose qui vous paraît.
Après, on ne sait pas si ça sera, on sait pas si ça sera un service payant ou pas, parce qu'il reste assez nébuleux sur ce truc-là pour l'instant. Mais c'est vrai que moi, j'imagine, parce qu'on parle souvent de la NX et on ne sait pas du tout quelle forme elle prendra. Moi, j'ai un peu de mal à imaginer que ça soit une console purement portable, parce que quand on voit le chemin que prend la 3DS en ce moment, même si ça marche bien, ça marche moins qu'avant, et le fait qu'un Layton sorte pas sur, que le prochain Layton, qui est quand même un énorme carton sur 3DS, le fait que le prochain sorte,
c'est pas exactement la même chose qu'un Layton, hein, le Layton 7, hein, ça reste
c'est un peu un spin-off quand même,
c'est un spin-off, ouais, tendance loup-garou,
ça n'interdit pas de penser qu'il n'y aura pas des Layton aussi sur 3DS, etc.
Mais je trouve que malgré tout, la grosse annonce,
l'un n'empêche pas l'autre,
la grosse annonce faite dans le cadre de cet événement là, ça reste malgré tout que Layton le prochain, peu importe la forme qu'il prendra, ne sort pas
et Fantasy
sur
Life.
Et Fantasy Life ne sort pas sur 3DS. Donc j'imagine mal que la DX et que la NX soit juste portable. Après, ça peut être un hybride.
Ah, complètement.
Ouais. Ouais, ça peut être un hybride, comme ces consoles là qui sont sous Android ou je ne sais plus quoi là, ou Raspberry, qu'on peut avoir en portable, mais qu'on peut aussi brancher sur son écran et puis en fait ça marche très très bien. C'est tout à fait possible.
En tout cas, dans ce qu'a dit Iwata justement à cette occasion. C'était que ils voulaient quand même persister dans le fait de, dans le hardware qu'ils allaient créer, d'y mettre quelque chose d'unique. C'est-à-dire, parce que tu posais la question, est-ce qu'ils vont tout simplement faire une espèce d'iPhone à eux, etc., pour pouvoir ensuite porter les jeux de l'un à l'autre? Non, ils veulent absolument garder une espèce de frontière entre les jeux qui seront proposés sur les plateformes smartphone, etc., qui serviront en gros d'appât pour faire venir les gens sur une plateforme qui, grâce à un élément hardware original, permettra d'avoir des éléments software inédits. Et c'est ça qu'il veut faire en fait. Donc, en plus du côté fusion éventuelle de
qui serait
la,
en
de la NX,
quand même.
Voilà.
En tout cas pour un gros constructeur. Voilà. Comme ça, quoi.
Et il y aura un truc hardware en plus, un nouveau gimmick quoi. Après les gestes de la Wii et le gamepad de la Wii U, ils veulent créer un nouveau. Bon.
Pour l'instant, c'est un partout, hein, un balle au centre. Hein, parce que la Wii U, super succès. Ouais. Le gimmick de la Wii U, oui, gros succès. Le gimmick de la Wii U, ça
bien
pas
sûr. Ouais.
Voilà, donc, ça, il faut qu'ils aient un truc qui les différencie, mais un truc bien bien choisi.
Bah,
parce
je pense que c'est exactement ce qu'ils se disent et c'est leur projet, c'est évidemment d'avoir une idée qui cette fois.
Mais gars, on a une sale idée pourrie. On va la faire.
Non, mais je pense qu'ils ont appris de cet échec.
J'espère.
Clairement.
Mais c'est sûr.
Il faut que le truc soit facile à expliquer, facile à comprendre, etc.
Ouais. Bon. Je sais pas, parce que historiquement, Nintendo a pas toujours compris ses erreurs. Hein. Quand ils ont insisté pour mettre des cartouches sur la N64, c'était pas forcément le choix le plus judicieux à l'époque.
C'était leur erreur. La fois d'après, ils ont fait sur disque.
Ouais, et encore,
c'est ça, apprendre de ses erreurs. Quoi.
DVD.
D'accord. Mais...
Tout ça pour dire qu'en tout cas que c'est très intéressant
de
suivre Level
5
et de suivre
aurait pu être sur CD.
La tendance de Level 5 qui est peut-être s'adapter à peu près à tous les développeurs et de surveiller un petit peu. Donc c'est Yo-Kai Watch, Layton 7.
Donc on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver exactement, mais ça sera probablement pas cette année. Le manga est censé arriver à partir de la rentrée, je crois, en septembre. L'animé, etc., il faut que ce soit aussi dealé avec les chaînes locales, à chaque fois en France et dans les autres pays et tout. Donc ça sera peut-être début 2016 s'ils n'arrivent pas à faire cette année, quoi.
Très bien.
Ça me fait penser à l'histoire de Haïm Saban. Je sais pas si vous connaissez Saban, c'est celui qui, dans les années 70, faisait des génériques de dessins animés en France et qui ensuite est allé aux États-Unis et a créé sa boîte qui a fait Power Rangers. C'est tous ces trucs là et je me rappelle d'un documentaire où il parlait de Pokémon parce que c'est pas Saban qui a pris les doigts et il dit c'est une collaboratrice qui a dit que non ça marche, que Pokémon ne marcherait jamais et donc elle a préféré passer pour
bien
nous
jouer.
Et ensuite il fait une petite pause et il dit cette collaboratrice ne travaille plus pour nous aujourd'hui. Et ça fait penser à Yo-Kai Watch et je me dis que les gens doivent se dire bon, on se souvient de Pokémon. On nous dit qu'au Japon, c'est un carton encore plus fort que Pokémon. Je pense que les chaînes vont plutôt se battre pour récupérer ce truc-là en Occident. Je pense que c'est plutôt bien parti pour que ça marche bien chez nous aussi.
Bon, en tout cas, Level 5, on peut dire qu'il pèse. Dernière question, tiens, sujet. Est-ce qu'on pourrait dire que Level 5, c'est un peu ce qu'était Squaresoft dans les années 90 ?
L'usine à rêve, on disait, de Squaresoft. Ils sont hyper créatifs et originaux par rapport au reste de la production. Et surtout, ils arrivent à transformer en or à peu près tout ce qui touche, quoi. Donc,
c'est du bon marketing en plus.
Ouais, donc je pense que oui, ça peut être comparé, même si c'est dans des registres un peu différents, quoi.
Ouais. Bon, on va taper dans un autre registre maintenant, on va taper un peu plus gros. Ah oui. Et alors vraiment, vraiment beaucoup plus gros. voyez, ça t'apporte. Taco Tuesday is coming next week. Everything is awesome in 3,
2, 1. Everything is awesome. Et oui, cette semaine, c'était l'occasion pour Warner d'annoncer LEGO Dimensions. On s'y attendait pas, enfin si on s'y attendait en fait, hein. Fallait bien qu'à un moment LEGO se lance dans la bataille. Après Skylanders, après Disney Infinity, eh bien ça va être la folie du NFC avec des pièces LEGO à monter et des personnages LEGO. Et alors là,
pour les premiers, ils sont en train de devenir épileptiques là.
Ça pue, c'est génial. Ça pue la machine HCash parce que
ici, rien qu'ici,
rien qu'ici, il y a déjà deux personnes au moins qui vont craquer comme des fous. Je vous donne un petit peu les licences qui vont arriver en septembre avec cette idée de jeu vidéo NFC avec un portail machin et Joel McHale dans la vidéo que Poufy va vous montrer, j'imagine, juste après si vous êtes premium. Il y a Le Seigneur des Anneaux, les comics DC, Retour vers le futur, Le Magicien d'Oz, Lego La Grande Aventure le film et Ninjago. Tout ça pour la rentrée dans le premier jeu Lego Dimensions. Autrement dit, je crois que on va encore alléger notre portefeuille de façon assez dramatique. Romain, est-ce que toi, qui es le président donc du fan club des Lego en France, qui vit pas loin du centre Sud-Ouest,
moi mon intérêt pour les Lego est lié aux licences qu'ils utilisent en fait. Mais ça semblait évident. On sait que les jeux vidéo Lego ont aidé Lego à revenir dans le vert il y a des années.
Traveller Stealth leur a fait énormément de merde.
Voilà, là on voit que Skylanders a cartonné, ça cartonne toujours. Disney Infinity, ça cartonne énormément aussi. Lego, vu leur présence dans le jeu vidéo, les licences qu'ils représentent, etc., ça semblait évident qu'ils fassent ça. Ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il y avait des rumeurs à ce sujet. Là, ça a été confirmé. Et là où je trouve que le coup de Lego est particulièrement bien joué, c'est que là où Skylanders s'adresse uniquement aux enfants, que Disney Infinity, bon, c'est un peu plus large, mais malgré tout, ça reste des choses pour les enfants. Là, ils utilisent... J'ai beaucoup de mal à parler avec cette musique derrière, c'est compliqué. Mais bon, c'est un travail de concentration, donc c'est bien. Lego s'adresse à un public qui est vraiment plus large, parce que c'est évident que Ninjago... C'est pour les plus jeunes. Mais à côté, quand tu vas sortir un pack Retour vers le futur, avec Retour vers le futur, tu t'adresses clairement pas aux enfants de 9 à 10 ans. Là, non. Tu t'adresses aux gens de mon âge, voire plus âgés. Et c'est un coup de maître.
Ah, mais les DC Comics,
parce
aussi,
qu'en
Batman,
plus, oui, voilà. Mais DC Comics, ça brasse très large. Et parce qu'après, là, ils ont fait ces annonces-là pour taper fort dès le début. Mais quand on pense à ce que Lego peut potentiellement utiliser après, ouais, c'est un truc de ouf. Ah bah. Ils peuvent te sortir Harry Potter, ils peuvent te sortir les Tortues Ninja, ils peuvent te sortir Ghostbusters. Et même
comment
après...
tu fais pour lire mes fiches dans l'ordre? C'est la question que je me pose là, parce que c'est exactement comme ça que
j'ai des questions pour le quiz.
Il y avait aussi, hein, les Simpsons.
Oui, les Simpsons.
Marvel.
Marvel, c'est plus compliqué parce que c'est Disney. Et comme ils ont déjà Infinity, c'est à eux de voir est-ce qu'ils veulent garder l'exclusivité des NFC de leurs personnages sur Infinity ou est-ce qu'ils veulent gagner encore plus d'argent en permettant à Lego de les utiliser aussi. Donc à voir. Mais pour moi, un jeu où tu peux faire équipe à Batman et Marty McFly, c'est tu lâches le micro et tu te barres et le game est
tué. Tu penses vraiment que ça va tuer le game?
Moi, il y a un truc que je trouve génial en plus de NFC, ça, voilà, en plus du mélange d'univers et tout, parce qu'en plus, franchement, pour tous ceux qui ont vu un peu les films Lego, etc., ouais, rien que Batman, il est fantastique.
Le personnage de Batman,
parle avec la voix du Dark Knight et tout.
Il est tellement con.
La chanson qu'il fait dans Lego La Grande Aventure, dépression, parents morts.
Non, franchement, il y a un humour trop génial. Les mélanges d'univers sont super bien faits. Puis, bizarrement, des trucs super sérieux vus en Lego.
Star Wars aussi, la mayonnaise prend immédiatement.
Donc, ça, c'est génial. Mais en plus, il y a un autre truc qui est génial, c'est que par rapport aux Skylanders, par rapport à Disney Infinity, etc., c'est que t'as une double magie. T'as la magie de poser un truc qui va apparaître à l'écran, mais t'as la magie Lego. C'est-à-dire que avant de le poser sur ton petit portail, tu le fabriques, le truc.
Même le portail, il faut le construire.
Voilà, donc tu prends tes petits Lego. Ouais, même le portail, il est à fabriquer.
C'est génial.
Donc tu fabriques le portail, tu fabriques ta petite voiture Batmobile et tu poses la Batmobile sur le truc et là, elle apparaît dans le jeu. Donc voilà, rien que ça, c'est le double effet qui se coule.
Et en plus, on sait que c'est Traveller's Tale qui développe ça, et les jeux Lego développés par Traveller's Tale sont bons.
La moyenne est bonne, parce qu'il y en a certains qui sont quand même...
On va dire les derniers en date étaient tous ceux... Enfin, moi, j'ai juste joué à ceux sur les super-héros.
Mais... Lego, le Hobbit, c'est eux ou pas?
Oui. Normalement, oui.
Parce que le Hobbit, j'ai trouvé moins bien que les autres.
Bon, c'est vrai que le dernier Batman était un peu moins bon que le 2 avec Lego Marvel, mais ils ont, par le passé, fait de très bons jeux. Donc, si tu regroupes tout ça, les licences, la construction... les bons jeux, etc. Lego Dimensions, ça peut être un truc de ouf.
Mais en termes de
coût, un truc de ouf,
de prix, est-ce que c'est pas un peu élevé?
C'est 100 euros cette fois, alors que les packs, le pack de démarrage
avec le portail,
le jeu, le portail, trois personnages dont Batman, Gandalf et.
Je crois pas que ce soit Gandalf. Hein. Je pense que c'est le magicien de Lego La Grande Aventure.
Ah, oui, c'est ça, ouais. T'as raison.
Je me souviens plus de son nom.
Enfin, c'est une sorte de Gandalf, on va dire.
Oh, putain, ouais. Celui qu'on vient de voir dans la vidéo. Ouais.
Ah, mais je crois que c'est Gandalf. Hein.
Non, mais il joue sur les stéréotypes à fond là-dessus. Et ils en
parlent. Non, parce qu'il est tout en blanc, le sorcier du film. Et là, c'est Gandalf. Il est en gris.
C'est Gandalf le gris.
Dans la news, je me rappelle d'avoir vu
Gandalf. C'est possible, c'est possible.
Bon, bref. Et l'un des personnages du film, donc Lego le film,
La Grande Aventure.
Voilà, c'est ça. Donc, Cool Tag qu'on voit justement.
Wild Style en anglais.
Ces trois personnages-là, ouais. Hein,
et la Batmobile.
Et la Batmobile, donc à monter. Et quelques briques en plus pour, j'imagine, faire d'autres créations. Donc, effectivement, tout ça pour 100$, là où les Skylanders et compagnie sont en général avec des starter packs à 60$, le prix d'un jeu normal.
Par contre, un truc que j'ai remarqué, c'est que la Batmobile ou la DeLorean de Retour vers le Futur sont des versions beaucoup plus petites que celles que tu peux acheter en boutique Lego. Et qui ne sont pas des jeux.
Le socle, il ne faut pas
le portail est petit aussi.
Oui, petit aussi.
Ouais, ouais. Mais ça me fait penser d'ailleurs aux Star Wars Minis. Je ne sais pas si vous les connaissez, ceux-là. C'est genre le Faucon Millénaire, le X-Wing, etc. En tout petit, ça existait déjà dans la gamme de Lego Star Wars. Je le sais parce que mon
regarde Poufy, la DeLorean.
Ouais, voilà. Donc franchement, il y a un potentiel de ouf, malgré effectivement le prix plus élevé.
Et malgré le fait que ce soit monsieur, j'ai plombé les Game Awards, qui soit quand même dans la pub, Joel McHale de Community.
Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'en fonction des packs que tu peux acheter, tous ne proposent pas la même chose. Certains sont purement des personnages, d'autres des véhicules, et certains aussi proposent des aventures. Par exemple, j'ai regardé le package du pack Retour vers le Futur. Donc, tu as la figurine de Marty, la DeLorean, le hoverboard, mais tu as aussi un pack de missions Hill Valley, etc. Parce que moi, personnellement, le côté je crée mon monde, etc., ne m'intéresse pas du tout. J'aime pas créer des choses dans les jeux.
T'as envie de casser, toi.
Non, j'ai envie de jouer à des histoires. Et donc, le fait que certains packs te propose du contenu scénarisé entre guillemets, je trouve ça plutôt...
Je suis un peu un spécialiste du genre et c'est chez les Skylanders et chez Disney Infinity
Skylanders qui a un gros succès,
c'est à dire que
je sais pas qu'on en parle,
tu peux acheter les figurines à part, ouais. Tu peux acheter les figurines à part, mais quand t'achètes un pack comme là les packs, t'as toujours un scénario en plus, une mission, une quête qui va avec des personnages et des objets. C'est un peu le même principe en fait, hein. De toute façon ils vont plus ou moins calquer la formule, ce qui est logique.
Pas peur d'une lassitude de ce côté-là, parce que c'est quand même un peu toujours les mêmes jeux, on est d'accord, Lego.
C'est vrai que moi, à chaque fois qu'on voit quand même des nouveaux trucs comme ça, et là on parlait de Level 5 juste avant qui allait certainement faire ça pour leur prochain projet aussi, au bout d'un moment, laisse tomber quoi. Enfin, quand t'es un peu fan de tout ça et que t'as envie de collectionner et tout, ça devient dur là. C'est-à-dire que.
C'est la rematérialisation du jeu vidéo.
Si tous les éditeurs se mettent à faire entrer leur licence dans des gammes de jouets comme ça, de figurines, c'est un peu redondant et c'est vrai que ça peut finir par.
Moi je parle des jeux tout court.
Ah, du jeu Lego ?
Les jeux Lego. De manière générale,
ils se déroulent pas dans les mêmes univers.
Mais c'est toujours le même cheminement, c'est toujours le même système de jeu, c'est toujours avec tel perso tu peux débloquer tel endroit, tu passes ton temps à bousiller des éléments du décor pour ensuite les recomposer et avancer dans le
La formule avait été pas mal renouvelée avec l'épisode Wii U, là, comment il s'appelait, Lego la grande aventure.
City Undercover, c'est encore un épisode à part.
Ouais, un épisode à part qui lui est renouvelé vachement un peu.
C'était un GTA Like, tout bêtement.
Ou même avec Lego Batman 2. Ils avaient ajouté pour la première fois un monde ouvert dans un jeu Lego comme ça. Mais c'est vrai que même si t'as le monde ouvert, le déroulé des missions, lui, est similaire. Tu pètes des trucs, t'as certains mécanismes qui ne peuvent être activés qu'avec certains personnages, donc t'es obligé de revenir après en arrière avec d'autres personnages.
Mais bon, t'as la surcouche de dialogue et d'humour.
Voilà. En fait, ils arrivent à te capter avec les dialogues, avec les histoires, avec les licences représentées, etc. Mais Par contre, ce que Julo disait en termes de sociétés qui vont se mettre à faire ce genre de choses, je pense qu'on n'est pas au bout de, on n'est pas au bout de surprise. Parce que je me souviens avoir parlé à Touquet à une présentation du jeu de catch. Ah, et je leur avais dit, moi, petit, je jouais avec les figurines de catch. Et si j'avais pu avoir un jeu qui me permettait de combiner mes figurines et ce qui se passe à l'écran, enfin j'aurais adoré. Et je pense que les gamins actuels, bah ça sera la même chose. Et il avait dit, je t'avouerais que, d'ailleurs j'en avais fait une news à l'époque, je t'avouerais que c'est un truc qui revient assez souvent en réunion et on y pense sérieusement. Donc oui, je pense que le Touquet va certainement y passer et d'autres
et
boîtes.
Et Capcom avec Resident Evil et machin, enfin, au bout d'un moment. Mais t'imagines un Street Fighter, il y a toujours un truc à trouver.
Electronic Arts avec FIFA, bim, allez, achète ta figurine.
Achète ton Messi. Non, t'achètes un FIFA où t'as pas de joueur dedans. Tu dois acheter tous les joueurs un par un.
Bah donc, voilà, tu t'achètes un terrain virtuel sur lequel tu places tous tes joueurs.
Surtout que Nintendo a montré qu'au-delà même des figurines à proprement parler, avec le NFC, on peut le faire avec des cartes à jouer. Hein, ouais. Donc typiquement des cartes à collectionner Panini de tous tes joueurs et équipes.
Regarde le gros succès d'Electronic Arts avec le mode Ultimate Team, dans lequel en fait les gens ouvrent leur paquet de cartes tirées au hasard. Comme
mais
nous,
là, ce sont même pas de vraies cartes.
On faisait ça
finalement
avec nos albums Panini à l'époque. Et les gens sont super excités par ce mode et par ces cartes qui récupèrent, etc. Donc
ils vont les vendre les cartes. T'inquiète, voilà.
Poser sur un portail, passer du 4-4-2 au 4-3-3 en bougeant tes cartes sur un portail,
des petits pions, des figurines, des cartes, ça pourrait le faire
façon Subutéo là, voilà.
Ah là là.
Non, il y a plein de trucs à faire et je pense que personne va faire cette économie et tout le monde y songe effectivement en réunion quoi.
On a montré aussi un exemple français sur Legends qui va arriver avec des superbes figurines designées par des Coréens avec énormément de finition, enfin une qualité de la finition qui est incomparable par rapport à ce qu'on voit encore aujourd'hui et qui seront des figurines qui s'adresseront à un public plus âgé de toute manière. Il y a un jeu tactique, RPG.
C'était quoi,
Prodigy, ça ? Alors ça c'était le nom initial et maintenant je crois que ça s'appelle Legends.
Qui était venu nous voir l'année dernière
on était allé les voir
c'est ce que je me suis toujours dit, je pense qu'il y a une part de marché qui n'attend que les joueurs adultes en fait à ce niveau-là, parce que c'est vrai que même si les gamers plus âgés, il y en a beaucoup qui collectionnent les figurines, les statuettes, etc., mais qui sont encore un peu rebutés par Disney Infinity par exemple, même s'il y a tous les héros Marvel et qu'il y aura certainement les héros Star Wars prochainement, c'est le côté enfantin de l'aspect des figurines ou le côté enfantin du jeu.
Mais là où Lego est puissant, c'est que c'est vraiment Lego, c'est une licence transgénérationnelle. C'est-à-dire que moi je prends du plaisir à acheter des Lego Star Wars à mes enfants, tu vois, parce que ils vont monter le vaisseau de Luke, ils voient les films avec moi, on se transmet des trucs, et Lego, ils ont réussi quand même à se renouveler depuis qu'ils ont fait leur licensing comme ça, avec, je crois qu'ils avaient commencé avec Star Wars d'ailleurs, et puis depuis ils ont fait le Lord of the Rings et tout ça, et aujourd'hui on se transmet des trucs de père à fils aussi à travers les Lego. Mais non, parce que tout le monde a joué au Lego, enfin je veux dire, c'est tellement universel déjà le Lego en soi, et en plus les licences qu'ils choisissent sont des licences transgénérationnelles que nous on a connues et que nos enfants connaissent aujourd'hui.
Et ton fils quand il joue pas au Lego, il joue à Minecraft. Donc c'est les Lego
numériques. Il fait des Lego.
Mais je suis d'accord avec toi, mais là tu vois t'as un cas particulier parce que t'as un enfant. Il y a encore beaucoup de gens qui n'en ont pas encore.
Tout le monde
encore
ne peut pas s'acheter un enfant. Ça coûte assez cher.
C'est un DLC quand même.
Moi, les jeux Lego, je les aime. Enfin, les jeux Lego basés sur les super-héros, je les aime beaucoup. Mais quand je lis les commentaires ou que j'en parle avec d'autres personnes, il y a encore beaucoup de gens qui trouvent que c'est trop enfantin, etc. Donc, j'imagine, par exemple, si tu arrivais avec un jeu avec un niveau de réalisation et d'ambition à la Batman Arkham, sauf que les personnages qui apparaissent dans le jeu sont liés à des figurines de qualité équivalente que tu poses sur un portail. Là, tu peux t'ouvrir un autre type de gamer,
de collectionneur,
plus collectionneur et qui veut un truc un peu plus adulte. Parce que c'est vrai que Lego, moi je trouve que l'idée est excellente et moi je pense que ça va me plaire. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont jamais joué à un jeu vidéo Lego aussi bon soit-il parce que ça fait gamin.
C'est possible.
Tout simplement.
En tout cas, ça marche en famille. Il y a Traz aussi.
Parce qu'en plus, tous les jeux Lego sont jouables à deux. Donc voilà,
je les ai tous faits en coop. Et même pas avec des enfants pour le coup. Et on s'est vraiment bien marré. Parce qu'en plus, dans les dialogues, t'as deux niveaux de lecture. Si t'es enfant, tu vas le prendre au premier degré. Mais adulte, tu vas noter plein de petits sous-entendus. Parce que le rapport entre Robin dans les Lego Batman, hein, le rapport entre Robin et Superman est quand même parfois super tendancieux. Et ça, je pense pas que les gamins le notent directement.
Si, ils l'assimilent, ils en parlent en classe, ils font des réunions avec leurs parents et tout. Ils se font arrêter par les flics ensuite, les services sociaux déboulent, et puis on connaît la suite, hein, évidemment. On va passer à quelque chose d'un peu plus adulte maintenant, puisque cette semaine.
Sans figurine donc.
Sans figurine, ça se trouve, il y en aura. Imagine.
Ça.
Tout est possible. Nous allons parler de Deus Ex Mankind Divided qui a été annoncé cette semaine. Divided, la suite de Human Revolution qui est paru en 2011. Un jeu d'Eidos Montréal, un RPG, FPS, furtivité, piratage, tout ce que tu veux. La première bande-annonce nous a fait tout simplement surkiffer. Elle est très jolie, elle est très bien rythmée et elle promet encore une fois des moments de transhumanisme bien sombre, mon cher Julien.
Et comme le
toi qui rêves d'être augmenté.
Bien sûr. Et comme le dit David ici, d'ailleurs, on rêve aussi, d'être augmenté, qui est le producteur du jeu. Il le dit en français dans le texte. Il a dit, c'est attendez-vous à un putain de bon jeu.
C'est un putain de bon jeu.
C'est affirmatif, c'est même pas une promesse.
Ouais,
c'est rien.
T'imagines le développeur qui te fait
Ouais, mais moi je trouve tout juste moi. Ouais, mais ils le disent pas généralement. Honnêtement, tout le reste, ce qu'on avait découvert dans cette vidéo promotionnelle de l'annonce du jeu, c'était, on va dire, entre guillemets, assez classique, toujours un peu auto-congratulant, etc. Mais le putain de bon jeu. Bon, ce qui est sûr, c'est que Human Revolution nous avait séduit à l'époque de sa sortie en 2011. Il portait en son sein énormément de belles choses. Il avait un petit peu déçu pour deux points, la technique était un petit peu en retrait par rapport à ce qui se faisait à l'époque,
mais la direction artistique était tellement folle.
Là-dessus il n'y avait pas de problème. Et des combats de boss qui étaient plus qu'améliorables,
c'était pas des putains de bons boss.
Les combats de boss, disons qu'il y avait un problème par rapport au tout premier épisode. C'est que les combats de boss, on pouvait pas les aborder de manière différente, sachant que dans le premier par exemple, t'as affronté un boss, une petite flèche tranquillisante, le combat est fini.
Et surtout, tout le jeu te laissait des choix comme ça, entre furtivité, entre action, etc. Puis quand t'arrivais au boss, c'était comme ça. Donc ça cassait un petit peu l'immersion générale du titre et sa cohérence. Faut pas oublier que les combats de boss avaient été sous-traités à une société séparée de Eidos Montréal. Je pense qu'ils sont un peu mordus les doigts. Alors là-dessus, déjà, ils ont rassuré d'une certaine mesure en annonçant que les combats de boss pourront être abordés de plusieurs manières différentes, entre infiltration, entre action, etc. Ils ont mis le curseur tout au max, quoi. Ça se passe 2 ans après Human Revolution.
En 2029,
on est toujours
donc.
Adam Jensen, bien sûr. Il y aura pléthore de nouvelles augmentations. La direction artistique par Monsieur Belletête, qui a encore pris du muscle et des tatouages, ça danse toujours aussi folle. En tout cas, elle a une classe incroyable. Évidemment, là, les images qu'on est en train de vous montrer et celles qui ont été diffusées lors de l'annonce sont en images de synthèse. Ce n'est pas le rendu du jeu.
Non, moi, je crois que c'est du moteur in-game, monsieur. Et tu sais quoi ? Et même qu'on en reparlera, tu verras, tu diras « Oh, mais tu avais raison. » Tu t'agenouilleras.
J'aimerais bien. Mais malheureusement, ça risque de ne pas être le cas, c'est même sûr. Cela étant, ils ont bien annoncé, il y aura du 13 FX, donc qui avait aussi fait un peu ses débuts, on va dire, grand public avec le reboot de Tomb Raider, qui est plutôt efficace.
C'était pour les cheveux de Lara Croft sur PC.
Il y a DirectX 12 qui sera bien utilisé. Ce sera vraiment les grands débuts de leur nouveau moteur qu'ils ont vraiment pensé pour ce titre-là, mais aussi pour les prochains titres, on va dire, next-gen, enfin Xbox One, PS4.
Ah oui, ils ont pensé totalement nouvelle génération.
Tout à fait. Donc là, ils ont mis tous les curseurs.
Ils n'ont pas été pressés pour faire une suite immédiatement sur Xbox 360 et PS3. Et grand bien leur a pris.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour l'instant, il n'y a pas de date qui a été donnée. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à une belle surprise, entre guillemets, par exemple à l'E3, en fait, ils annonçaient ce sera disponible à Noël, ou bien c'est juste parce que c'est dans quand même encore
ils
peu de temps.
Ils n'oseraient pas mettre Tomb Raider en concurrence avec Deus Ex, je pense.
C'est pas faux. Après, c'est des jeux qui sont quand même radicalement différents.
Et Deus Ex, c'est multiplateforme.
Je pense que là, ça serait tirer une balle.
Mais c'est plutôt un bon argument, effectivement.
Mais en septembre, pourquoi pas?
Peut-être. Ah ouais. Bon, on verra.
Sorti fin août, en 2011, donc tout est possible.
Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, beaucoup plus d'augmentation. On sent dans cette bande-annonce que probablement les différents lieux qu'on va visiter, qui sont annoncés plus nombreux et plus ouverts que dans le Human Revolution, il y aura peut-être un petit passage à Paris, puisqu'on le voit signalé dans la vidéo.
Partie des trois villes, évoquées. Dans
exactement.
La vidéo.
Donc il y a beaucoup de choses intéressantes. L'univers est tellement riche, le transhumanisme, c'est tellement demain en fait, puisque depuis 2011, regardez tout ce qui s'est passé avec les Google Glass, la réalité augmentée qui arrive.
Des gens qui se font greffer des bras,
les prothèses,
exactement,
fonctionnent très bien.
Les lentilles de Google pour les diabétiques, etc. Enfin, on y arrive vraiment plus que juste l'imaginer ou le fantasmer. Donc, je trouve que c'est un jeu très actuel, en tout cas dans sa philosophie, dans sa démarche, dans le thème qu'il aborde. Et j'espère véritablement que l'équipe d'Eidos Montréal, qui est vraiment une équipe de passionnés, hein, va se transcender pour eh bien, augmenter encore la qualité qu'il y avait dans Human Revolution.
Ce qui me fait, la vidéo fait super vraiment envie. Plaisir, en tout cas, c'est que ça fasse pas comme avec Hitman Absolution. Alors, je vais vous faire part de ce que j'avais pensé d'Hitman Absolution, c'est-à-dire que c'était un jeu d'infiltration qui était très bien, mais qui n'était pas nouvelle génération. C'est-à-dire qu'il se contentait des bases qu'il avait auparavant. Il n'avait pas osé, par exemple, je ne sais pas, vous déguiser avec un scaphandre. Normalement, personne ne voit qui vous êtes en dessous, mais vous faisiez quand même remarquer à ce moment-là. C'était une espèce de, on va dire, on reste dans la même lignée quoi, qu'auparavant, que dans Blood Money, que dans les autres épisodes. Et là, j'aimerais bien que ça, pareil, ça passe un petit cap, même en termes d'IA, en termes de possibilités, parce que bon, on peut dire tout ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, faire le tour des grilles de ventilation, moi personnellement j'en ai marre. Il y a d'autres possibilités de furtivité qui devraient s'offrir un moment ça.
Alors parmi les choses qu'ils ont abordées, ça va peut-être te faire plaisir ça. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de vachement intéressant, c'est que bon, bien évidemment on recevra des missions, etc. Et il y en a qui seront contradictoires, c'est-à-dire que les ordres qu'on va recevoir pourront être contrebalancés par d'autres ordres, etc. Il faudra se positionner probablement pour voir comment tu appréhendes la mission. Et puis aussi, bah, par rapport au scénario, qui je pense sera encore plus étoffé du coup à ce niveau-là, quoi.
Qui sera encore adaptif par rapport à tout ce
qu'on pourrait. Un petit côté X-Men dans la bande-annonce, ça m'a fait. C'est parce que tu sens clairement une opposition. D'un côté, tu as les personnes qui n'ont pas été modifiées. Mm. T'as les personnes modifiées qui se rebellent contre le traitement qui leur est fait. Et t'as le héros au milieu qui lui semble pencher plus du côté des humains non modifiés, alors que lui-même l'a été. Mm. Contre, tu sais, c'est genre les X-Men gentils contre les X-Men méchants.
T'as raison,
tu vois,
hein, c'est j'ai envie de dire, c'est même le sous-titre. Hein. Ouais, Mankind Divided.
Ça veut dire ce que ça veut dire.
Ouais. C'est l'humanité,
ça veut dire quoi?
Bah, l'humanité qui est séparée, il y aura des choix à faire.
Imagine, vous auriez pas répondu. Bah, ça veut... si. Bien sûr, tout le monde sait ce que ça veut dire. Dans cette rédaction, en tout cas.
Divided?
En tout cas, ça fait vraiment super envie.
Et à double titre, c'est le retour aussi. Alors malheureusement, je me rappelle plus de son nom, mais du compositeur qui avait fait une BO quand même.
Michael McCann.
Ouais, c'est ça, exactement. Qui avait fait une BO exceptionnelle pour le.
T'as vu la mémoire que j'ai, hein, c'est incroyable. J'ai pas du, je me suis pas du tout aidé de ce que j'ai sous les yeux, mais vraiment. Ouais.
Tu es légèrement augmenté.
Ouais.
Qui avait fait une partition incroyable pour Human Revolution et qui la signe visiblement une fois de plus la BO de cet épisode.
Moi, très Vangelis, hein, la BO. Très Blade Runner dans la conception. Et qui fait planer à donf, quoi.
Mais il y a vraiment une ambiance très particulière, je trouve, dans Human Revolution, et là on la sent de nouveau prégnante dans ce Mankind Divided, qui le sépare un peu des jeux un peu comme ça futuristes qu'on a l'habitude de voir. Donc en tout cas, c'est prometteur, et espérons maintenant qu'il le confirme via un bon jeu, quoi.
Ben, espérons peut-être que, je sais pas, ses ambitions lui permettront d'atteindre le statut du premier Deus Ex qui reste un des meilleurs jeux de tous les temps.
Dont d'ailleurs, ils ont bien souligné que le scénario va vraiment regarder du côté du premier Deus Ex avec beaucoup de références, beaucoup d'éléments, des personnages qu'on retrouvera. Mais là, apparemment, ils ont mis le booster à ce niveau.
C'est vrai, ils ont mis le paquet.
Exactement.
Et bien en parlant de ça, vous avez senti le petit jingle, c'est normal, on va passer, messieurs, maintenant qu'on a parlé beaucoup jeux vidéo, au hors-jeu, et on va commencer justement avec toi, Julien.
Ah bah bonjour.
Voilà, alors Julien, ton hors-jeu de cette semaine.
Tout à fait.
C'est quelque chose qui est déjà sorti depuis un petit moment, mais tu l'as enfin regardé.
Eh bah je l'ai regardé.
Tu l'as
parce
regardé,
qu'il est disponible
aussi, pour le coup.
Sur Netflix.
Ah, vous êtes deux à l'avoir regardé.
Enfin disponible sur Netflix. Je ne gagne aucun euro à chaque fois que je prononce ce mot Netflix. Mais non, moi je trouve super comme service Netflix. Donc c'est Atari Game Over. Mm-hmm. Et donc c'est la fameuse vidéo, le fameux documentaire de cette légende urbaine. Est-ce que en vrai, le pire jeu de l'histoire du jeu vidéo, E.T. sur Atari 2600, a véritablement été enterré dans une décharge du Nouveau-Mexique? Eh bien donc ils ont mené l'enquête. Bon, la réponse, vous la connaissez, c'est oui. Alors après, c'est intéressant justement de voir à la fin du documentaire qu'ils disent oui, mais quand même, on n'en a retrouvé pas tant que ça. Et on en est un peu étonné aussi.
Donc, dire ils ont peut-être fabriqué ça.
Ouais, ils n'ont pas retrouvé que des E.T. Mais surtout, ce que je trouve vraiment passionnant dans ce documentaire, c'est une sorte de réhabilitation de ce monsieur là qu'on oui. voit, Howard Warshaw, qui est donc le créateur du jeu, qui a donc quand même réalisé E.T. en 5 semaines, quasiment 24-24, tout seul. Le mec était un authentique petit génie. C'est lui aussi qui avait fait Yars Revenge.
Et en plusieurs millions de sellers sur Atari 2600. Le mec, enfin, s'ils lui ont confié E.T., c'est pas pour rien. C'est que le mec, il était talentueux et efficace.
Intéressant aussi de voir que Steven Spielberg avait joué au jeu et l'avait adoubé totalement en disant yes, ouais, c'est vraiment super, etc. Et ouais. le mec dans l'interview le relance, hein, vous y avez joué? Ouais, ouais, c'était vraiment top.
J'ai joué à la dernière version qui est clairement la meilleure de toutes.
Et effectivement, c'est vrai, et je trouve que c'est intéressant et, de le dire et de le souligner, c'est que c'est devenu le pire jeu de l'histoire du jeu vidéo, alors que fondamentalement, en fait, c'est loin d'être le pire jeu de l'histoire du jeu vidéo, mais parce que beaucoup de personnes, nous les premiers, hein, les médias, la presse, etc., eh bien, en boucle, on répète ça, ça en devient une espèce de réalité, mais qui n'a rien d'une réalité, c'est un espèce de fantasme collégialement accepté, et ça arrive dans plein de domaines comme ça, que, parce que il y a beaucoup de personnes qui répètent des choses, ça en devient, en tout cas pour certains, des réalités. C'est pas toujours le cas, et c'est intéressant de voir à quel point cet homme est réhabilité aujourd'hui d'une certaine manière via ce documentaire. Documentaire qui est intéressant, en plus qui n'est pas super long. On pourra d'ailleurs, bon, on a parlé avec toi Romain, on peut rester peut-être un tout petit peu sur sa fin.
Clairement.
Mais bon, c'est à voir, en tout cas quand on aime le jeu vidéo.
Et alors il paraît aussi qu'on a retrouvé dans le désert Jacques Cashcar et l'hélico avec Jardel qui arrivait à la canne bière et puis on n'a jamais su. Voilà, c'était le petit truc.
Le truc, c'est que E.T. est devenu le pire jeu de tous les temps à cause de la légende urbaine, en fait. À partir du moment où les gens ont su que E.T. avait été enterré, bah, ils se sont dit, s'ils l'ont enterré, c'est bien pour une raison. Alors qu'en fait, effectivement, oui, E.T. a été enterré, mais pas que. Il y avait en fait tous les invendus d'Atari qui se sont retrouvés dans ce désert d'Alamo Gordo. Et le truc, c'est que quand tu entends Howard Scott Warshaw parler de son jeu, il avait vraiment une idée précise de ce qu'il voulait faire. Et pour le coup, pour un jeu créé en 5 semaines sur Atari 2600 qui plus est, il était super ambitieux.
Et c'est le premier jeu dans lequel il y a des easter eggs d'ailleurs de l'histoire du jeu vidéo. Enfin, finalement, c'est un jeu intéressant. Alors après, il y a des bugs, il est chiant, il est super dur, etc.
C'est de l'Atari 2600.
C'est hardcore et c'est clairement pas un grand jeu. Hein. Ça, on va pas se mentir sur la question. Mais déjà, il faut voir dans quelles conditions il a été développé. Et pour conclure, il y a le président de l'époque aussi d'Atari, de Warner, de tout ça, qui précise bien que c'est absolument pas E.T. qui a plongé Atari dans la dégringolade qu'ils ont connue après et la mort d'Atari d'une certaine manière.
Presque la mort du jeu vidéo dans son ensemble.
Exactement, c'est pas du tout E.T. E.T. finalement, oui, ça a été un problème. Oui, bon, ça s'est pas très bien passé. Mais enfin, c'était déjà, on va dire, ils étaient déjà passés à autre chose quand ça a vraiment merdé, quoi.
En fait, ils expliquent que ça, c'est une anecdote que je ne connaissais pas, c'est que ils ont utilisé Atari comme un appât pour essayer, Warner a utilisé Atari comme appât pour essayer de faire venir Spielberg chez Warner, en fait. Parce que Spielberg, c'est quelqu'un d'univers, enfin, qui a bossé avec Universal, etc. Et c'est pour ça qu'ils lui ont proposé 20 millions, 22 si je me souviens bien, pour avoir les droits de faire E.T. sur Atari 2600. 22 millions de dollars, surtout à l'époque, c'est une somme pour un jeu vidéo qui était absolument incroyable et complètement démente. Et donc c'était un appel du pied, en fait, ils ont dépensé, et ils expliquent qu'E.T. au fond, c'est une goutte d'eau parmi tant d'autres. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir aussi que pour les joueurs d'Atari 2600 à l'époque, il y avait une grosse lassitude face au torrent de merde auquel ils étaient mis face. C'était des jeux faits à la va-vite, complètement mauvais, développés avec les pieds, juste pour utiliser l'Atari 2600 comme une cash machine, tout simplement. Et E.T., après, oui, ça a été vraiment la dernière goutte d'eau dans le vase. Mais c'est vraiment pas ni la faute d'E.T., ni la faute de Howard Scott Warshaw, qui m'a fait beaucoup de peine dans le documentaire, parce que tu sens que c'est un mec qui était vraiment passionné, qui avait envie de faire les choses bien.
Et talentueux.
Et qui s'est retrouvé victime des circonstances et victime de choix très douteux d'Atari. Tu demandes pas à quelqu'un de développer un jeu si important en 5 semaines juste pour pouvoir le mettre sous le sapin à Noël, parce que effectivement c'était E.T. qui a surcartonné au cinéma. Les gens ont voulu acheter le jeu en masse parce qu'il s'en est vendu plusieurs millions tout de suite, mais sauf que les gens l'ont trouvé mauvais et ont voulu le rendre, et il n'y avait pas de politique de retour à l'époque, donc ce qui fait qu'ils ont dû rembourser les gens et se retrouver avec des millions de cartouches invendues et un trou financier colossal.
La pub d'E.T. du jeu Et dans le documentaire américaine, et elle est vraiment top. Elle reprend vraiment un peu le film, etc., avec un autre acteur. C'est pas Elliot qu'on connaît, mais elle est très sympa.
Et Howard Scott Warshaw, ce documentaire, ça a bousillé sa carrière. Il a arrêté le jeu vidéo, il s'est fait renvoyer d'Atari, et il a arrêté le jeu vidéo, et il explique qu'il a enchaîné les boulots, etc., et maintenant il est kiné, si je me souviens bien.
Il est très heureux.
Ah bah kiné, c'est tant bien, ça te concerne là, t'as besoin de...
C'est ce soir,
8 heures. Je vais te faire passer par
Je sais pas, mais il faut me remettre 2-3 trucs. Mais ce qui est incroyable, enfin moi vraiment ça m'a fasciné, hein, c'est de voir, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment tournés live, hein, parce que quand ils sont en train de faire le trou, bah et hop, tout de suite la caméra se tourne, alors qu'est-ce que t'en penses, etc. C'est cette capacité qu'ont les Américains à te faire des punchlines. Dès qu'il y a une caméra, moi je l'avais déjà vu quand on avait fait des tournages aux États-Unis, on interview des gens, mais même dans la rue et tout. Oh, cette capacité qu'ils ont à te sortir des bons trucs où tu fais bah merci, c'est cool.
Alors que quand même, simplement.
Alors que nous, voilà. Quand on fait des reportages, des lancements de console, etc., on met une caméra devant les gens. Wouh, c'est pas la même, hein, vraiment. Donc je trouve qu'il y a quand même une. Il y a quelque chose sur lequel on devrait s'inspirer un peu, sur la qualité d'expression, d'envie, de concision, de précision et d'interpeller les gens. C'est à voir, parce que au-delà même de Warshaw, il y a d'autres personnes qui sont interviewées, même des gens qui sont dans la foule, genre en train de découvrir des trucs, etc. Bah, c'est brillant, quoi. Les mecs sont bons, quoi.
Parce qu'ils sont effectivement dans la file, enfin la queue qui se crée devant la décharge par les gens qui veulent venir voir l'événement. Il y a beaucoup de vraies émotions et de vrais sentiments, et je pense que c'est ça qui joue aussi, c'est qu'ils s'expriment sincèrement. Il y a des mecs passionnés qui sont venus là pour vivre ce moment fort de l'histoire du jeu vidéo, et ils parlent avec leur trip en gros, et ça, forcément ça donne des commentaires intéressants. Et un autre truc que j'ai souligné dans le documentaire, c'est que il y a un historien du jeu vidéo qui parle donc d'Howard Scott Warshaw, et qui parle aussi de toutes les cérémonies de remise de prix qu'on a chez DICE ou des trucs comme ça, et il parle de grands créateurs et d'anciens créateurs qui sont récompensés, et Howard Scott Warshaw a jamais eu aucune de ces récompenses là à cause d'E.T. alors que, comme disait Julien, il a fait Yars Revenge, qui est un des premiers grands jeux de l'Atari 2006, qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, et il en a fait plusieurs comme ça, et moi je trouve que cet homme là mériterait d'être récompensé pour son apport aux jeux vidéo, parce que Atari, ils ont quand même créé une industrie presque tout seul, tu vois. Enfin, ils ont eu un impact et une influence énorme qu'on ressent encore aujourd'hui. Et aussi, un autre truc, c'est que j'aurais bien aimé voir si Howard Scott Warshaw avait pas arrêté le jeu vidéo à cause d'E.T. et des conséquences que ça a eu. J'aurais bien aimé voir son parcours, jusqu'où il aurait pu aller avec ses idées. Alors peut-être que ça se serait arrêté très vite, qu'il se serait retrouvé à court d'idées, ou peut-être que ça serait aujourd'hui considéré comme un Miyamoto, qui a un grand nom du jeu vidéo. Il y a beaucoup de et si qui te viennent à l'esprit quand tu regardes Atari Game Over.
Bon, on va l'inviter à un podcast de toute façon.
Même pour le coup, je pense que c'est un mec qui doit avoir énorme, parce que comme on le disait tout à l'heure avec Julien, c'est un documentaire qui est très court, ça fait 1h06 à peu près, et il y a plein de trucs qui sont évoqués très rapidement, les débuts d'Atari ou même la fin, et je pense que ce mec là doit avoir des anecdotes, parce que quand il raconte comment ça se passait chez Atari à l'époque,
ça fumait pas mal, hein, et pas que des clopes que t'achètes
les cigarettes
dans le
exotiques
commerce.
Ça tournait pas mal chez Atari, parce qu'en fait les dirigeants partaient du principe qu'à partir du moment où ça marchait et que les jeux fonctionnaient bien, il fallait aller dans le sens des créatifs en fait, et donc les laisser plus ou moins faire ce qu'ils voulaient. Et Howard Scott Warshaw dit clairement, quand je suis arrivé chez Atari et quand je suis parti, je me suis dit que plus jamais je ne travaillerai dans les conditions dans lesquelles j'ai travaillé chez Atari. C'était Woodstock un peu
comme
chez Atari.
D'ailleurs, ouais. Au passage. Julo,
on fume moins quand même.
Tu trouves? Oui, c'est vrai. Mais t'as ton truc là, non? T'as pas ton
câble
électronique? Ah bon? D'accord, moi je croyais. Julo.
Yes.
On va revenir dans le monde des Lego.
Ouais,
parce
désolé,
que ton enjeu,
hein,
de la semaine, ton enjeu de la semaine concerne.
Bah en fait c'est un truc, c'est un truc assez ancien mais que j'ai découvert il y a pas longtemps comme souvent, notamment grâce à Romain qui m'en avait parlé.
La NES. Alors.
Non, c'est pas les Lego. Alors c'est un truc particulier de Lego. Ça s'appelle Lego Ideas, donc les idées Lego. Et en fait c'est
un programme.
C'est un programme qui est vraiment génial et qui permet en fait à tout à chacun de proposer une idée de set Lego. Par exemple, je vais faire j'ai une idée, on va faire Lego Shenmue, voilà. Donc on va faire
tu sortiras jamais quoi.
Ryu en personnage, et puis le setting, ça sera en fait la salle d'arcade ou alors son dojo, etc. Tu proposes l'idée sur le site, tu bosses ton truc, tu dis voilà, il y aurait tel personnage, il y aurait tel truc, etc. Tu crées une image et tout ça. Tu balances ton projet et il est soumis au fait au vote des internautes qui sont inscrits sur Lego Ideas. Je me suis inscrit du coup pour aller faire donner quelques clics. Et grâce à ça, des projets géniaux sont nés, comme celui qu'on est en train de voir à la télévision. Et là, ça pourrait être mon fiston, parce que c'est exactement celui que je lui ai acheté. C'est la voiture des Ghostbusters. Donc, c'est un petit setup avec les quatre chasseurs de fantômes et la fameuse bagnole.
Ecto-1,
c'est ça. Que tu peux monter comme ça en une heure ou deux. Et puis,
qui te frotte la gueule. J'allais dire plus qu'une heure ou deux, là. Hein.
Non, c'est une heure ou deux. Et c'est franchement à chaque fois une réussite, parce que Lego ils arrivent quand même à partir de choses réelles à créer, bah voilà, on l'a bien vu avec toutes les licences qu'ils exploitent, des modèles réduits qui sont évidemment déformés mais qui arrivent vraiment à respirer l'original quoi. Et donc ce modèle de Ghostbusters a été proposé par un internaute, il a obtenu les 10 000 votes nécessaires c'est la première étape. Si tu as 10 000 votes, Lego regarde la faisabilité de la chose. Donc il va se renseigner, est-ce qu'on peut choper la licence, est-ce qu'en Lego on peut vraiment créer un truc ressemblant, etc. Et à partir du moment où Lego a dit bon bah ouais, c'est possible, ça marche, on le fait, eh bien ils sortent le truc. Alors parfois en édition limitée, parfois moins limité, donc ça peut être en vente uniquement sur le site de Lego ou ça peut aller jusqu'au Lego Store. Alors je sais pas si vous savez, il y a un Lego Store à Paris.
Oui, il y a Disney.
À Levallois, il y en a deux. Il y en a un à Levallois et un chez Disney. Donc Levallois, j'y suis allé justement et j'ai pu découvrir là-bas. Il y a un projet qui a été validé. Vous aimez les Avengers, c'est l'espèce d'énorme vaisseau sur lequel
le vaisseau du Shield.
Ouais, c'est le Queen Jet.
Voilà.
Shield.
Et bah lui, il a obtenu les 10 000 votes. Il est en cours et si vous allez au Lego Store de Levallois, donc c'est comment il s'appelle ce
Sowest.
Voilà, dans le centre commercial Sowest, vous pourrez le voir. Il a été monté par les équipes de Lego. T'appuies sur un bouton, ça fait tourner les hélices et tout, c'est super classe. Et ce truc-là va probablement aussi arriver en jouet bientôt. Voilà, si vous suivez un peu la team Shenmue là sur Twitter, vous avez pu voir qu'il y a un projet qui a été proposé aussi pour les vieilles bornes d'arcade Sega, Afterburner,
etc. Les bornes de Yu Suzuki.
Voilà. Ils en sont à 3500 votes sur 10 000, mais il reste je crois 300 jours. T'as plus de temps que sur Kickstarter quand même, hein, parce que c'est un peu plus confidentiel évidemment. Faut laisser le temps au projet de se faire valider. T'as également
elle est où, la communauté Shenmue là.
Certains vont très vite.
Écoute,
hein.
Je pense que voilà, il y a 3500 personnes.
Ouais, c'est ça qui est.
Non mais faut s'inscrire sur Lego IDs, etc.
Non mais là pour le coup ça n'a aucun rapport direct avec Shenmue. Hein. Ce sont des bornes Afterburner, Egon, etc. C'est surtout le travail lié au travail de Yu Suzuki. Ça n'a pas de lien direct avec
le travail
pré
Shenmue.
Et sur Gameblog on avait parlé aussi d'un Zelda qui avait atteint les 10 000, mais il n'a pas été validé. C'était joli pourtant.
Voilà, donc il est allé dans le bureau de Lego. Lego a dû se renseigner. Nintendo a dû dire fuck you. Voilà.
Je pense que
ça s'est arrêté là. Dommage. Mais cela dit, il y a un projet Fez actuellement. Vous voyez les univers de Fez comme ça, ces espèces de niveaux tout en hauteur.
Top, ça.
Et ben en Lego, ça défonce.
Ah bah.
Voilà, donc allez voter pour Fez parce qu'il a pas encore atteint les 10 000.
Lego doit aussi se renseigner sur la viabilité commerciale du truc. Hein. Je suis pas certain que les Lego Fez ça cartonnerait.
Bien sûr.
Et il faut aussi se dire que comme on présente le truc là, les gens vont se dire je vais faire un dessin, je vais soumettre ça.
Ouais,
à Lego.
Non, faut faire un truc classe.
En principe, les mecs font un dossier qui est super travaillé et eux-mêmes créent un prototype à partir de Lego que tu peux acheter dans le. Tu peux acheter.
Bah, d'ailleurs, dans les Lego Store, tu peux acheter tes briques Lego à l'unité. Enfin, tu les mets dans des pots en fait. Mm. C'est en fonction de la taille du pot que tu payes. Tu prends toutes les pièces que tu veux. Et donc ouais, tu peux créer.
Il faudrait faire des Lego Game Blog.
Mais ouais,
avec des petits personnages.
Rédac. À la base,
c'est bien, ils auront tous des lunettes, c'est cool. Hein.
C'est cool.
À la base, ce sont des dossiers très travaillés. Je repense par exemple au cas de Ghostbusters.
Regardez comme elle est classe la bagnole.
Le projet original, il y avait les 4 figurines, la voiture, mais il y avait aussi la caserne. Et donc, la caserne, Lego a dû se dire que c'était pas faisable, donc ils ont juste fait la voiture.
Alors, sur Lego IDs, il y a actuellement un projet qui est justement qui attend vos signatures, qui est justement, c'est pas la caserne, mais c'est des settings dans la caserne, quoi.
Les pièces.
L'endroit où tu mets les fantômes. Oui. Voilà, avec ta machine ectoplasme là, voilà, t'as plein d'endroits comme ça. Donc c'est sur ideas.lego.com et c'est cool, voilà.
Ok, Romain.
Oui.
Ce dont on va parler, c'est cool aussi.
Oui. Enfin, c'est cool pour moi. Après,
c'était cool pour toi. Ouais, mais c'était cool un peu pour le monde entier qui aimait
Oui.
Danny Briand, non, c'est Daniel Bryan.
Vous aimez peut-être Danny
Briand.
On va
parler un peu de catch avec toi. Parce que c'est ta grande passion. Ben on va parler de WrestleMania parce que tu y étais.
J'y étais.
C'est pour ça que tu n'étais pas dans les deux derniers podcasts, parce que tu étais à San Francisco pour assister à ce show annuel de. C'est pas ça, c'est pas San Francisco aussi.
Si, 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 si.
Attends, je t'ai vu hocher la tête.
Non, parce que j'étais en train de revoir les images et je me dis punaise quoi.
Il en pouvait plus quoi.
Et
que s'est-il passé? Qu'est-ce
c'est
qui t'a plu là-bas?
Le Levi's Stadium de Santa Clara en Californie, un soleil magnifique, 77 000 personnes chauffées à blanc. Et un spectacle de dingue. Bon, la vidéo là, malheureusement, a l'air de ramer un petit peu. Mais je partais un peu défaitiste parce que le build-up du avant le show me semblait pas terrible.
Bichou, il y en a une sacrée patate à quelqu'un.
Les scénarios.
Ils sont combien là?
Là, ils devaient être une vingtaine ou une trentaine, je sais plus. Les scénarios étaient pas super sympas, mais au final ils nous ont fait un show de ouf malade. C'était vraiment excellent, plus de 4 heures de spectacle incroyable. Enfin, c'était génial. Ben voilà Daniel Bryan
Qui a gagné donc.
Qui a gagné son match.
Attends,
pas...
Daniel Bryan, c'est celui dont on avait parlé déjà.
Jésus
là.
Ouais, voilà, c'est
Jésus. Il a gagné.
Ouais, en fait, c'est
putain, il y a Chabal.
Il a pas gagné le match dans lequel j'espérais qu'il soit. Mais ils lui ont quand même fait faire un match qui était plutôt cool avec des échelles donc, et c'était spectaculaire.
Il y avait Undertaker.
Normalement tu devrais le voir dans les images par la suite. Il y avait l'Undertaker. L'Undertaker a gagné.
Il gagne toujours en fait.
Non, il a perdu l'année dernière pour la première fois
de toute sa carrière.
Et non, pas de toute sa carrière, mais pour la première fois à WrestleMania. Et tu vois Daniel Bryan qui gagne son match.
Mais cette gueule de ouf, je te jure.
Mais
c'est
super sympa, arrête.
Et il est très gentil. C'est c'est un mec qui est pas du
Orton.
Tout.
C'est, il est bon lui.
Moi je le déteste mais viscéralement. D'accord. J'ai envie qu'il meure mais vraiment.
Oh, dis donc. Et comme ça.
Mais les gens l'aiment bien donc moi je le trouve vraiment sans intérêt mais. Totalement.
En tout cas, il chope il fait des DDT.
Par contre, il a fait une prise finale qui était super spectaculaire. Vous allez le voir. Ouh, je pense qu'il a contré. Oh. Regardez, il a contré ça. Et Brom,
et lui a fait le petit paquet. Oh la vache, il a gagné là-dessus.
Surtout qu'il y a des chances, comme c'est tout est en direct, il y a des chances qu'on se rate, quoi. Enfin, ça arrive. Et là, il a bien réussi. Et un des catcheurs a fait une entrée Terminator avec une intervention de Schwarzenegger.
On dirait Shao Kahn.
De Schwarzenegger. Un peu.
Ouais, il est apparu sur l'écran. Il a fait.
Tout ça pour dire que t'as trippé.
Ouais, il y a eu. Je te dis des surprises de ouf pendant ce match-là, par exemple.
Ce match-là, c'était donc
Sting contre Triple H. Il y a eu.
C'est combien de temps?
Deux interventions.
4 heures. Hein.
L'événement principal durait 4 heures et il y avait un pré-show d'un peu plus d'une heure avant. Voilà, Hulk Hogan qui est arrivé au moment où je m'y attendais pas. Je vous promets, j'étais debout sur mon siège, les mains sur la tête, j'en pouvais plus. À la fin de la soirée, j'étais couvert de coups de soleil, j'avais plus de voix. Enfin, c'était incroyable. Vraiment, et considéré par beaucoup comme un des tout meilleurs WrestleMania de l'histoire. Et c'était le 31e, hein, donc ça fait plus de 30 ans que ça existe. Donc.
Et voilà.
Bien choisi ta date, quoi.
Franchement, je partais super défaitiste et c'était excellent.
Pour y aller, enfin, je veux dire, c'était
l'argent des premiums, en fait.
Oui, non, bien sûr. Il n'y a pas de question. Mais...
voilà, c'est ça.
T'as acheté ton billet, en fait, machin, ou t'as des packs tout faits pour les fans étrangers comme toi.
C'est une excellente question. En fait, tu peux très bien faire comme les Américains, l'Américain lambda, et acheter ton ticket et ensuite réserver ton hôtel, etc. Mais ils font aussi ce qu'ils appellent des travel packages et en fonction avec plusieurs catégories de prix. Et là, c'est le
ils te réservent ton hôtel,
c'est la joie pour les fans de catch. En fait, t'as deux tickets d'entrée pour deux sessions à Access. C'est un peu une sorte de Comic-Con ou de Japan Expo WWE, quoi. C'est beaucoup plus petit en termes d'envergure, mais t'as des sessions de questions-réponses, des autographes, une sorte de musée, etc. Donc t'as ticket pour ça. Ticket, il y avait The Rock aussi qui est arrivé par surprise. Je revois les
images. Qui s'est pris une baffe,
ouais.
D'accord.
Et
le mec, il déglingue tout le monde au cinéma, mais il se prend des baffes comme ça par une meuf.
Ah,
sur
c'était
le
mec marrant qui lui a mis une baffe.
Ouais. Oh. Parce que c'est la patronne du truc. Et voilà l'Undertaker.
Eh ben, si vous êtes premium, vous pouvez voir quasiment tout le show en fait. Hein.
C'est un gros résumé. Ouais.
Pourquoi tu nous ferais pas un live? Tu prends la vidéo, puis tu la commentes, puis c'est parti.
Et donc je reviens au package.
Oh là là, le marteau pilon. Aïe. Bam.
Oh.
Allez.
Mais comment ils font pour pas se faire mal? Mais genre très mal.
C'est du talent, mais
ils ont les vertèbres cassées.
C'est comme les cascadeurs.
Mais non, mais regarde. Là, il peut pas ne pas se casser.
Il tient la tête entre les jambes.
Non, mais par contre, il y a des ratés. Ça arrive. Ça se termine en fauteuil roulant.
Aïe.
Bon, ça c'est impressionnant.
Regarde les feux d'artifice, c'est chaud.
Alors le package. Vas-y,
donc les tickets pour deux sessions de Access, T'as les tickets pour le Hall of Fame le samedi soir. Le Hall of Fame, c'est une cérémonie très solennelle. Hein. Tout, les mecs sont en costard et tout, où ils récompensent les anciens catcheurs pour l'ensemble de leur carrière, etc. T'as des discours parfois assez émouvants. Des fois, l'année dernière.
Les meilleurs vertèbres d'or.
Non, mais l'année dernière. Là, c'est Brock Lesnar. Brock Lesnar en
short. Non, mais les pains qui se mettent dans la gueule. C'est oui, un problème.
C'est bien que c'est du chiquet. Mais...
Bon, bah, je sais pas.
Et donc, Hall of Fame, une cérémonie très sympa. Le lendemain, donc.
Qui vénère.
Le show principal, WrestleMania. Et le lundi soir, parce que la WWE a une émission hebdomadaire diffusée le lundi soir aux États-Unis qui s'appelle Raw. Et le lendemain de WrestleMania, bah, comme ça tombe un lundi, t'as toujours le Raw du lendemain. Et c'est toujours un des shows les plus ouf de l'année parce que t'as tout le public étranger qui est réuni dans une même salle de 20 000 personnes à peu près. Et où là, ça part en cacahuète au niveau des shows. On a fait la hola. Les Américains font pas la hola. Ils ont été obligés de rallumer en speed les lumières dans la salle et faire reculer les caméras pour montrer le public parce qu'on en avait rien à foutre de ce qui se passait dans le ring. On s'est amusé entre nous et ambiance de feu. Et donc t'as ça plus 4 ou 5 nuits d'hôtel. Donc c'est vraiment le rapport qualité-prix de ces packages là est vraiment
donc ça,
très
c'est
intéressant.
C'est le truc que t'as pris, ça.
C'est le truc que j'ai pris.
Alors, ouais. Ça coûte combien? Il y a le billet d'avion dedans?
Non, il y a pas le billet d'avion. C'est, ça dépend des gammes de prix. La gamme de prix que j'ai fait, que j'ai prise moi, c'était
ouais, selon le placement, j'imagine.
C'était ouais, on n'était pas trop mal placé. C'est 1 200 €. Mais il y a beaucoup plus. Hein. Tu peux aller plus près.
Non,
si
mais c'est raisonnable
prends...
avec 5 nuits d'hôtel, ah bah, le show et tout.
Et le rapport qualité-prix est excellent. Et les trucs qui vont encore plus loin, tu peux repartir avec la chaise sur laquelle tu étais assise.
Non,
c'est vrai.
Et dans l'avion, comment tu justifies le truc?
Mais
bonjour.
Non, mais c'est drôle.
J'ai un truc en soute, je peux le mettre avec moi? Non,
non, bon. Mais c'est drôle. À San José, San Francisco et tout, tu voyais des gens se balader avec leur chaise sur le bras. Et ils expliquaient que si tu l'envoies par FedEx, c'est genre 300 $ ou un truc comme ça. C'est très cher, ouais. Mais tu voyais, les gens se baladent. Mais c'est des chaises collector, hein, avec un truc
évidemment,
dessus, etc.
Évidemment.
Putain, la chaise collector, j'y aurais pas pensé quand même.
Ouais. Moi non plus.
Ah, ouais. Mais ils ont le souci du, ils ont le souci du détail.
C'est les dieux du marketing, les mecs.
Ah ouais, non, c'est assez incroyable. Là, on se rend pas bien compte en France, mais la WWE aux États-Unis, c'est une...
C'est la Champions League.
C'est une boîte quand même qui pèse dans le game... Très cher.
En tout cas, on peut voir que ça t'a fait plaisir. Hein. T'as un beau sourire hein, quand
ah,
tu nous en parles.
Non, mais c'était génial.
Et tu vas y aller tous les ans maintenant ou...
Bah, c'était la deuxième année de suite que je le faisais.
Ah, merde, t'es
putain,
foutu,
ça
là.
Y est, merde, là, t'es dans la merde.
En fait, l'année dernière, c'était le 30e.
Là, t'as pris
et
la machine
avec
en
mon cousin,
clac.
Avec mon cousin pendant presque 10 ans, on s'était dit le 30.
Ton cousin, donc lequel?
Le cousin.
Le cousin très beau.
Très
bravo,
beau.
Bravo. Un autre cousin.
Un des cousins côté
celui
Picard.
Du Schnorr, là.
Oui, oui, côté Picard.
Cousin de là-haut, là.
Avec qui dans l'enfance, il se passait des trucs un peu chelous.
Maître Hippo que je salue, hein, que tout le monde connaît de loin ici aussi maintenant. Et on s'était dit, on fera WrestleMania 30. On l'a fait.
Vous dans dit la même chambre
vous,
et tout.
Est-ce que vous vous l'avez dit comment? Est-ce que vous avez dit, on va faire WrestleMania 30 ensemble?
J'ai dit, Hippo.
Oui.
Et si on allait voir des mecs en slip?
Oh, oui, je ça, on va se huiler le corps avec eux.
Se retourner dans tous les sens.
Sans enfants.
On prendra la chaise à la fin.
Pas d'enfants, pas de femmes. Juste
je te
toi.
Ferai le coup de la planchette japonaise. Et il m'a dit banco. Et on l'a fait, c'était génial. Donc on s'est dit, est-ce qu'on va essayer de faire la
40e? Non, on va d'abord faire la 31.
Le 31e.
Qu'est-ce qu'on pense, vos
on
femmes?
On a dit oui. Et bah, sa copine à lui trouve ça très
l'a
bien.
Quitté.
Et la mienne, ça ne la dérange absolument pas non plus. Et,
ouais,
et donc,
pas,
on commence déjà à envisager de le refaire l'année prochaine.
Oh.
Parce que j'explique, l'année prochaine, en fait, ils prennent le stade.
Alors 6 mois.
C'est à Dallas, c'est le stade des Cowboys de l'équipe de football américain, mais c'est un stade de plus de 100 000 personnes. Ouais. Et donc, en fait, leur but pour ce 32e WrestleMania, ça sera de battre le record d'affluence. Tout événement confondu depuis l'histoire de la WWE. Donc, pour faire ça, ils vont être obligés d'envoyer du lourd et donc certainement de rappeler des noms qui ne catchent plus forcément aujourd'hui, etc. Et donc, ils veulent mettre le paquet, donc ça risque d'être un des WrestleMania les plus importants, si ce n'est le plus important de l'histoire. Donc, l'envie d'y
chaque
aller.
Chaque année,
fort.
Ils vont te faire croire ça et puis c'est bon.
Non, parce qu'il y a des années, ils le disent chaque année,
bon,
évidemment.
Donc, on
c'est
peut
comme...
commencer à
non,
cocher dans le post-it vacances de Romain.
Ouais, entre
ça.
Parenthèses,
avril,
on peut.
Voilà,
non,
quoi.
Mais tu sais que potentiellement, c'est comme les jeux. Hein, quand tu sors un nouveau jeu, tu vas dire Push the Boundaries, ça va être le meilleur jeu de tous les temps. Mais là, et ils le disent tous les
mais
ans,
là,
c'est
push
vrai.
The boundaries.
Non, ils le disent tous les ans. Moi, cette année, je n'y croyais pas. Par exemple, je n'y croyais pas du tout et j'ai été très agréablement surpris. Mais là, étant donné qu'ils veulent, ils veulent mettre plus de 100 000 personnes dans un stade, ce qui est du jamais fait pour la WWE, ils vont forcément être obligés de mettre le paquet. Donc, je suis intrigué. Et j'ai jamais été à Dallas. Donc.
Dallas, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup Dallas. Par contre, il fait chaud en été, saloperie.
Là, c'est début avril. Donc,
c'est, genre, j'avais pas compris. Là-bas, il faisait plus humide que dans n'importe quel endroit de la Terre que j'ai visité.
C'est impitoyable.
Enfin, bref, j'aimerais bien que les gens donne sa chance au catch. Parce que oui, les résultats des matchs sont prédéterminés.
Bon, ça va, on a assez parlé de catch maintenant.
Mais ouais. Regardez, vous connaissez, vous n'y connaissez rien de... et vous étiez intrigué parce que vous avez
moi
vu.
Moi je connais un petit peu. Attention, oui, je regardais les années 90.
Ah, moi je connais rien du tout.
Je connais rien, mais t'étais intrigué.
Oui, oui, oui. Oui, alors
ah
après,
franchement, j'ai envie de dépenser 1200 euros
Non, mais ça, je sais pas.
Il y a plusieurs niveaux. Là, on atteint le niveau de fan extrême. Mais tu peux très bien regarder à la télé sans que ça te coûte quoi que ce soit.
Okay. C'est bon. Ton enthousiasme était en tout cas très communicatif.
D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que j'ai participé aux trois hors-jeux cette semaine.
Donc, et sur
les trois à la suite.
Sur le Xbox Live, il y a une chaîne maintenant WWE.
Il y a l'application WWE Network en fait pour.
Tu te mets les trucs de catch.
Les films.
Non, mais pour 10$ par mois, en fait, c'est le Netflix du catch. WrestleMania a été diffusé en direct. Et t'as aussi les archives.
Parce que faut ça en fait quand t'es en France et que tu veux regarder.
Ah, mais
faut
c'est génial.
Que quand même tous les midis, il regarde du catch.
Ouais.
Mais vraiment.
Non, pas tous les midis.
Rami regarde des épisodes de séries, des trucs comme ça,
regarde
c'est
un peu
tout.
Tout
ouais, non,
mais
le catch qui est mieux quand même.
Mais le WWE Network disponible sur PS4, sur Xbox One, etc. C'est vraiment le rapport qualité-prix ultime.
À quand le tatouage, Romain?
Jamais.
Oh.
Ah non, le tatouage et moi, non.
Okay. No, tu veux pas un grill pour les dents
WWE? Non, par contre la moustache de Hogan, ça c'est pas impossible.
Voilà, enfin,
et le mulet blond, ouais.
Ah, j'ai hâte.
Ouais.
Bon, moi j'avais un petit hors-jeu vite fait. J'ai vu le premier épisode de la saison 5 de Game of Thrones.
Ouh.
J'en parle très vite hein, parce que bon, c'était un peu calme hein, comme épisode, mais franchement ça faisait kiffer, et surtout dans une salle de ciné.
Laquelle?
Le MK2 Bibliothèque, qui a sûrement le cinéma que je préfère de tout Paris, avec ses, tu sais, avec les sièges qui ont un truc rabattable là, et puis du coup on peut se caresser et tout.
Tu mets pas Careless Whisper?
Si, je peux bien.
T'étais avec quel cousin?
J'étais pas avec un cousin, j'étais avec.
T'as quel animal de qui alors?
Un chien, un chat.
Il y avait Marcus par exemple qui était
très
là.
Non, mais t'étais avec Thomas Gadon.
Oui, Thomas, notre petit Thomas.
Vous aviez l'air très proche sur les photos.
Bah, effectivement, j'étais très très proche.
Juste, t'avais dit qu'il se déguisait en Daenerys.
Moi, j'aime beaucoup les Bretons, tu vois. Ce garçon, j'ai une anecdote avec Thomas qui travaille.
Que personne connaît, voilà.
Voilà, qui travaille en tant que. On dit quoi? Attaché de presse? Non,
oui.
Dans une boîte de presse avec laquelle nous travaillons habituellement. Et qui donc m'a montré un truc. C'est comme ça que j'ai rencontré. Premier jour où je l'ai vu.
Montré un truc, Careless Whisper.
On avait débouché une bouteille de vin. Le bouchon est resté au milieu. Il nous a montré un truc. J'en suis jamais revenu. C'est, il prend une godasse, il met le fond de la bouteille de vin dans la godasse et il cogne contre le mur.
Ouais,
et là, le bouchon s'éjecte.
Ouais.
Et ça, je ne connaissais absolument pas ce truc-là. Et ça m'a fasciné. Et depuis, c'est devenu mon copain. Voilà, c'était juste
formidable.
Ça.
Ah, bref,
il était devenu son copain depuis qu'il t'a montré un truc incroyable.
Bah ouais, voilà, exactement.
Son truc incroyable.
Plutôt. C'est un peu ça. Son piège à fille qui fait crack boom. C'était un peu ça. Et donc voilà, ce premier épisode de Game of Thrones, c'est bien, ça se lance super bien. Et maintenant, diffusion. En même temps que les États-Unis, le lundi à 3h du matin.
Ils sont obligés.
Grâce à OCS et CanalSat, ça va être un truc de fou. Vous n'aurez plus de nuit.
Combien d'épisodes?
Je pense qu'il va y en avoir une douzaine encore. Hein, une douzaine pour cette saison 5. Qui risque de spoiler un petit peu les bouquins d'ailleurs. D'après ce que.
Peut-être pas sur cette saison-là, mais ça commencera vraiment beaucoup à partir de la saison 6.
Il y avait déjà eu quelque chose dans la saison 4.
Spoiler les bouquins, c'est quand même adapté du bouquin.
Ouais, mais
ils vont prendre de l'avance sur les livres.
Voilà, les livres 4 et 5 en fait sont des. Se passe au même moment mais avec des points de vue différents, donc du coup la chronologie, à un moment quand tu fais une série tu respectes une chronologie et donc elle va être un peu devancée par rapport au livre.
Mais ça veut dire que potentiellement la série va avoir sa propre histoire en fait.
Non, ils ont contacté l'auteur.
Ouais, ils sont en contact avec l'auteur
en fait. Ils savent déjà comment ça va se terminer.
Il est producteur exécutif.
D'accord. Et ça sort quand le dernier bouquin là,
là il travaille sur le 6e donc
et il y en a 7
et il y en aura 7 en
mais
tout.
Inévitablement ils vont devoir faire une pause dans la série.
Bah oui.
Non, la série se terminera, parce que j'avais fait une news là-dessus d'ailleurs. Ils avaient évoqué, il y a des chances que la série prenne de l'avance sur les livres. Ils savent où George R. R. Martin veut en venir. Mais alors il dit sur des points moins importants c'est possible que le livre et la série soient différents, mais sur l'intrigue globale ils seront d'accord. Donc c'est possible que les gens, ça serait totalement inversé par rapport à Harry Potter par exemple, c'est possible que les gens qui regardent uniquement la série connaissent la fin de Game of Thrones avant les gens qui ne lisent que les livres.
Et ouais. Et tout ça pour dire que dans cette série,
pas banal ça.
Dans cette série, il y a Nathalie Dormer, et que cette actrice est géniale. Elle a un petit nez.
C'est quel rôle Nathalie Dormer?
Marjorie Tyrell.
Ah, c'est celle qui. Oui, je vois.
Oui. Qui jouait Anne Boleyn dans Les Tudors. Voilà. Et qui a un petit nez génial. Ah, bref. Oui. Tu vois qui c'est?
Très bien.
Ouais, tu vois bien ou bon?
Ah, je la vois bien.
Ah, ouais, moi aussi.
Son petit nez retroussé, je le vois bien.
Ah ouais, son petit nez incroyable. Bref, maintenant que nous avons fini avec le hors-jeu, Julo.
C'est l'heure de faire la fête avec les points concours.
Alors, comme toutes les semaines, puisque c'est un concours permanent, Joe Video vous propose de gagner un abonnement Gameblog Premium annuel. Ça se passe chaque semaine depuis une des chroniques de Joe. Vous cliquez sur le lien pour accéder au concours. Il y a trois petites questions, il y a une question avec trois petits choix. Qui vous permettent donc de gagner un an d'abonnement premium. Mais c'est pas tout. Alors, pour les premiums qui nous écoutent, il reste deux concours encore ce week-end.
C'est vrai, il y en a qui durent jusqu'au 13, hein, si je ne m'abuse.
Donc, jusqu'à lundi, effectivement, c'est le concours Hackers Game qui vous permet de gagner une Xbox One, rien que ça, avec Kinect, hein, je précise, aux couleurs du film, ainsi que des packs de goodies avec des t-shirts et des tas de choses. Hackers Game, donc le film qui est sorti le 24 mars dernier en dématérialisé, et donc une Xbox One à gagner, c'est pas rien, c'est cool. Il vous reste 2-3 jours si vous êtes premium, si pour les autres c'est fini,
c'est sympa.
Voilà, vous avez en même temps eu beaucoup de temps pour participer, vu que c'était un concours qui durait, je crois, 3 à 4 semaines.
Alors, donc
c'est
nickel.
Voilà. Ça suffit maintenant.
Et dernier concours
Encore une fois, qui va se terminer dimanche. Donc, pour les premiums qui nous écoutent, du Xenoblade Chronicles 3D à gagner, le jeu. Mais surtout, il y a 10 artbooks qui n'ont pas été mis en vente. Donc, c'est des pièces rares, des artbooks donc, sur l'univers de Xenoblade Chronicles. Ça, c'est à gagner donc jusqu'à dimanche, comme je disais. Voilà.
Très bien. On va lancer un autre puisque nous avons des dates.
Oui,
nous avons des dates, mon bon Julien, des dates de soirée
de session premium. Alors effectivement, pour nos abonnés soutien, eh bien ça y est, on s'est concerté et nous avons deux dates à vous proposer. On a bien compris que maintenant on allait faire deux par deux à chaque fois, ça vous permet de vous organiser au mieux. Alors la première qu'on peut vous proposer, c'est le vendredi 22 mai. Voilà, donc ce sera le soir, hein, comme d'hab, hein, de 19h à 23h. Bon, parfois il y a un peu de rab,
hein, ça dépasse hein, de temps en temps,
exactement,
hein. Tu sais, il se passe des trucs des fois dans les soirées premium.
C'est pas faux.
Surtout et pourtant, Romain, mes cousins ne viennent pas.
Voilà.
Bah, t'imagines le jour où ils vont venir.
J'ai besoin de compenser, donc c'est ça.
Donc, et la deuxième date ?
Et la deuxième date, ce sera en juin, ce sera un peu après le 3. Ce sera le vendredi 26 juin, où on pourra vous accueillir à la rédaction de Gameblog à Paris, histoire de débriefer un petit peu de cette E3, qu'est-ce qu'on aura vu, aimé, etc.
Ouais, voilà, de ce qui va se passer dans la chambre d'hôtel, surtout. Il y aura des choses à dire de ce qui va se passer de votre petit voyage, parce qu'on sait qui va maintenant.
Cette on réputation qui va, vous me faites.
On sait qui va aller à Los Angeles.
Bah, l'Américain, donc, voilà. Alias Romain Mahut, Bibi. Ouais. Et Martin, notre cadreur.
Voilà. Ça va être
le trio fantastique de ce.
Parce que déjà l'année dernière c'était Quentin.
Ah bah oui.
Avec Guigui.
Donc voilà.
Le seul dénominateur commun c'était toi d'ailleurs.
C'est ça.
Ouais, donc on se demande pourquoi c'était hot à chaque fois.
Bref. Tout. Moi j'aime la vie, j'aime l'amour, j'aime
il change
tout. Ses,
il change ses proies à chaque année.
Il change les partenaires.
Exactement, ouais.
50 Shades of Grey. Allez messieurs.
Moi j'aime quand c'est serré.
Vous le savez, on ne peut pas finir.
C'est quoi le thème du concours?
Un petit quiz. C'est pas un concours, c'est un quiz.
Sur le thème du
c'est
quiz,
pas grave.
Pardon.
T'inquiète pas, on est tous crevés. Eh bien, c'est un spécial GTA. Parce que vous le savez, GTA 5 arrive sur PC la semaine prochaine. La version supérieure, j'ai envie de vous dire.
Super Edition.
Que, évidemment, nous allons découper, analyser abondamment hein, pour vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le bide en version 4K 60 images secondes. Bref, question numéro 1, messieurs. Vous êtes prêts de vos micros?
Ouais.
Un film est en chantier.
Romain.
Oui.
Daniel Radcliffe.
Oh, oh là 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 là. Mais alors là, c'est. J'ai même plus besoin de poser les questions. Mmh. On a un précoq juste à côté là. Mmh. Effectivement, un film est en chantier pour raconter l'histoire des hommes derrière la série GTA. Qui devrait interpréter Sam Houser, cofondateur de Rockstar, Daniel Radcliffe. Bravo. Deuxième question. En quelle année est sorti le tout premier GTA?
Romain. Julien.
J'ai entendu Romain d'abord.
1997.
Non.
Deux points pour Romain, hein. C'est incroyable. Il a l'air de s'y connaître en GTA plus que ce que vous pensiez. Mais...
C'est moi qui avais fait le test.
C'est vrai.
Je l'avais démonté.
Bah, c'est une erreur parce que t'es un
non,
jeu
non,
génial.
Non, le premier c'est de la merde.
Mais
excusez-moi,
non,
c'est de la merde.
Mais non, les gens ont aimé.
Bah, je m'en branle,
tu es allé à contre-courant.
J'ai une question à foutre. Je donne
moi,
mon avis.
Je me souviens bien d'avoir joué à GTA à l'époque. J'étais trop jeune pourtant. Mais
t'étais trop jeune?
Ouais.
On va faire
pause ce GTA
pause ce GTA immédiatement.
Et donc, j'avais pas été trop fan de la partie technique, la vue du dessus, ça m'a toujours un peu gonflé, mais l'ambiance déjà, je trouve qu'il y avait, il y avait déjà quelque chose. J'avais réussi à être captivé par le jeu malgré les limitations techniques, donc ce qui est déjà pas mal.
Mais les gens après, évidemment, pensent bien ce qu'ils veulent, hein, mais le thème même du jeu et tout ce qui fait le sel d'un GTA aujourd'hui était quand même pas vraiment là à ce moment-là, et c'était vraiment
toujours l'histoire des missions qui te sont données par.
Mais tu gagnais des points en écrasant les gens, etc. Enfin, c'était beaucoup plus sous le côté.
Je me souviens pas
trop
de ça.
Pour un gamer.
Ouais, je me souviens pas non plus. Ouais, j'ai pas beaucoup joué.
C'est de la merde.
Deux points pour Romain. Question numéro 3. Comment s'appelait le studio?
Romain.
Romain.
DMA Design.
3 points pour Romain qui remporte déjà haut la main ce quiz de podcast. Mais effectivement, c'est DMA Design. Bah ouais, bravo Romain. Question
Bonjour,
numéro 4 pour le sport. Dans quel volet de GTA a-t-on pu apercevoir de la nudité masculine frontale, autrement
Julo.
Dit
Vice City.
Romain.
Oui.
Ah bah non, mais réfléchis après. Voit dans GTA 4.
Ouais, je crois que c'est ça. Ah bah non. Eh bien.
J'ai pas fini la question, hein, au cas où vous auriez.
Ouais, bah vas-y. Hein.
Donc, de la nudité masculine frontale, autrement dit, un pénis.
Ah. Je. Oui. Attends, ouais,
j'attends
ouais.
pas longtemps.
Oui, oui.
Tu me connais.
C'est dans GTA 4 Ballad of Gettoni.
C'était dans Lost and Damned.
Ouais, bah,
et oui, c'est dans
Lost and Damned. T'es sûr qu'on en voit pas dans GTA 4 Brucey, on le voit pas à poil dans GTA 4
Non. Non, monsieur, le premier sgeg, c'est dans Lost and Damned.
Depuis, il y a un
sgeg. Je me souviens en plus de ce sgeg.
Je crois pas. J'ai pas souvenir d'autres sgegs, mais je retiens pas trop les sgegs, à vrai dire. Pour pas te mentir.
Effectivement, c'est pas le bon verbe. Mais...
Question numéro 5. Quel avocat américain, radié du barreau en 2008, s'est fait connaître en accusant GTA de
Julien
les oui.
Thompson.
Jack Thompson, ouais.
Tu pouvais pas donner son prénom?
Bah non.
Bah c'est Maître Thompson.
Bon, allez, je l'accepte parce que c'est vraiment.
Bah
sinon,
son prénom
en ce moment,
tu dis Chirac,
non.
Tu dis Sarkozy,
bah, Thompson,
tu dis Balladur.
Ouais, mais les Thompson, il y en a des milliers dans le monde.
Tu dis Molinaro.
Ouais, qui présentait l'école des femmes. Martin, bah oui, mais qui Martin? Ricky Martin, Jean-Louis Martin, enfin voilà, non. Il faut
bah, c'est
un
Martin.
Non, non, mais bon.
Martin Lamotte.
Oui, c'est le fils de Jacques. Non, non, mais la prochaine fois, je veux des prénoms. Attention. Non, non, mais ouais, baisse les yeux, t'as raison.
T'as pas dit quel est le nom d'eux?
Bah, quel avocat, mais
ah bah, tu dis jamais quel est le nom.
Il
et
peut
le
y avoir un autre. Il peut y avoir un autre Thompson américain, avocat.
Oui, bah,
etc.
Je te le dis, c'est
bon,
Jacques.
Bref, on s'en
Jacques
fout.
Thompson. Jacques Thompson.
Merci, messieurs.
Merci.
Encore une fois, d'avoir participé à ce podcast.
Qui a planté
337...
trois fois. Si vous voyez des coupes,
oui.
C'est normal.
Vous verrez un peu les coutures. Si
non, parce que sinon, on va nous faire des procès Illuminati.
Oui, non, mais Poufy va nous faire un montage de ouf, vous allez voir.
De déglingo.
Vous ne sentirez
rien passer. Il va mettre des étoiles.
Non, tu sais, ce serait drôle comme dans la vieille série Batman où t'avais la spirale qui apparaissait. T'as une tête de Poufy géante qui apparaît et tu passes à la suite du podcast.
Bon, en tout cas, merci Romain,
je t'en
merci
prie.
Julien,
merci
Julo d'avoir participé à ce podcast.
On peut les soigner maintenant
en termes de montage. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast d'actualité. D'ici là, portez-vous bien et surtout, soyez bien.
Salut,
ciao.
Au revoir, ciao.